Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Un plaisir de vous retrouver en ce lundi 29 août pour une nouvelle saison des vraies voix, où j'ai l'immense bonheur d'être en excellente compagnie. On va avoir l'immense bonheur d'être en excellente compagnie puisque Cécile de Ménibus est assise à mes côtés.
Bonjour Philippe David.
Bonjour Cécile. Ça vous change en termes d'horaire. Hein.
Oui.
Vous avez échangé un baril de Patrick Roger contre un baril de Philippe David.
Oui.
Vous pensez être gagnante ou perdante?
Vous avez, écoutez, je saurai dans un an, je vous dirai. Je ferai un petit
bilan. On a déjà la réponse. Je peux déjà te souffler la question.
Mais Françoise, n'oubliez pas qu'il faut être bienveillant.
Ah oui, c'est vrai. Bah oui, bah on est bienveillant avec tout le monde.
Vous connaissez Philippe, Françoise et Jean, pardon. Vous savez que je suis quelqu'un de très bienveillant, donc voilà.
Et moi aussi.
Je vous laisse ce job.
Est-ce que je peux vous bénir votre arrivée? Je bénis l'arrivée de Cécile de Ménibus, in Latinus.
Alléluia. Amen. Alors, trois vraies voix qui se connaissent bien et que vous connaissez bien et qu'on retrouve: le président de l'Institut de la Parole, auteur de Libres propos d'un inclassable. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Cécile. Bonsoir mon cher Philippe. Et
on est ravis de vous retrouver. Hein.
Moi aussi.
Il est beau, Philippe.
Je vais m'habituer au duo.
Voilà.
Vous êtes tout en bleu là aujourd'hui.
Ouais, bah oui, j'aime bien le bleu.
C'est la couleur mariale, tu vois.
Il est bronzé. Avec nous, j'aime Françoise Degois, éditorialiste de Radio LCI, auteur de, je rappelle, ce livre, L'homme qui n'avait pas d'amis, chez Plomb et de.
Ce qui n'est pas votre cas. Vous êtes la femme qui a beaucoup d'amis. Ouais. Bienvenue, Cécile de Ménibus. Dans ce. Attention, ça s'attrape, je veux dire. C'est bien que vous restiez normal pendant la saison qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce que vous sous-entendez?
Faudrait-il que je le sois à la base? Oui. Normal, ce qui n'est pas gagné.
Et je vais me venger, enfin, un homme qui est docteur en psychologie.
Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a à dire que nous, on est des débiles?
Non, Jean Dorizo, qui, si toutes les personnes, tous les Français avaient les mêmes profils psychologiques que Françoise Degois et Philippe Bilger, roulerait en Ferrari. Bienvenue, Jean Dorizo.
Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux et même un peu ému de démarrer cette nouvelle saison.
Déjà ému.
Déjà lèche-cul.
Ah, elle est bien dans le ton, la Ménibus. Elle a tapé direct. On va arrêter de faire blablabla. On rentre direct dans le truc, là. Parce que.
Excuse, c'est moi qui est suspect.
Allez, voilà. Parlons vrai. On va parler de pas mal de choses dans cette émission. On va revenir sur Sandrine Rousseau, les propos de Sandrine Rousseau sur le barbecue. Le barbecue est-il viril? Est-il une pratique plus virile? En tout cas, on en parlera pendant cette émission avec cette question du jour. Comme Sandrine Rousseau, pensez-vous qu'une entrecôte cuite sur un barbecue est un symbole de virilité? Ben, pour l'instant, vous dites non. 93%. Et puis un autre, on vous laissera réagir dans quelques instants. Et puis une autre information aussi sur le Touquet. Vous savez, ce DJ qui a insulté Emmanuel Macron à son arrivée. Et on se pose une question avec Philippe. On se dit finalement, faut-il rétablir le délit d'offense au président de la République?
Qui a été aboli il y a quelques années. Vous aimez la lune, les amis? Ça vous fait rêver, Tintin, on a
moi
marché
sur la lune. Quand vous commencez à des questions comme ça, avec la lune venant de vous, j'ai peur. Avec Dorido dans le studio. Là, d'un seul coup, il y a un truc qui m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi.
Non, mais ils ne dérapent pas, là.
Ils sont vis-à-vis, ils sont dans leurs petits souliers. Et ça me fait rire de les voir tous les deux, ils ont peur. Il y a le patron qui écoute.
On va prendre la direction de Toulouse et de la Cité de l'Espace. On aura avec nous Philippe Perrin, spationaute qui a volé sur la navette Endeavour. Et on aura Olivier Sanguy, responsable actualité spatiale à la Cité de l'Espace, pour parler du vol de la mission Artemis qui devait décoller aujourd'hui, mais s'est reporté jusqu'à vendredi. Bon, il faut dire qu'au prix de la fusée, le moindre doute, on préfère décaler plutôt qu'elle ait un problème au décollage.
Vous trouvez pas, Cécile ? Je pense que c'est vous qui avez décalé quand vous le dites, là. C'est vous, pas de la mission, c'est marrant. C'est marrant, oui, c'est ça.
Il a décalé, mais il décolle rarement.
Ah oui.
Oh la vache,
ça part fort. Ça envoie du bois.
Ça commence.
Et de 19h à 20h, on parlera des médecins généralistes. Et c'est une émission citoyenne.
C'est sérieuse, celle-là.
Les VV citoyennes. Alors, c'est les VV avec le G500 auquel Sud Radio avait participé à Marseille. Et on parle. On recevra toute cette saison, lundi soir de 19h à 20h, ces associations qui font la vie des Français. On va parler des médecins généralistes qui ont eu un été pour le moins compliqué et du pouvoir d'achat. En deuxième partie, on partira avec un entrepreneur et président d'association à Marseille qui suit la rentrée des classes dans les quartiers nord de Marseille.
Et en attendant, un petit tour de l'actu, on va voir si vous êtes au niveau de ce qui s'est passé ce week-end et de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le mot androcène est né ce week-end. Finalement, qui est le nouveau petit Robert? Qui a inventé ce mot? Jean Dorido, tiens.
Qui a inventé ce mot? Androcène.
Androcène.
Alors Andro,
c'est l'homme. Androcène, c'est ce qui tourne autour de c'est le tropisme masculin. Et il y a Sandrine Rousseau qui en a parlé.
Bonne réponse. Bonne réponse de Françoise Degouin.
C'est la nouvelle théorie politique de Françoise Degouin, j'allais dire, de Sandrine Rousseau.
Un
ouvrage écrit
n'importe
à six mains.
N'importe quoi, toi.
C'est le titre de son livre, un ouvrage écrit à six mains, et voilà, qui parle du bouleversement de l'ordre social. Mmh. Et la Dépêche du Midi a titré « L'homme est plus responsable que la femme de la crise écologique ». Et ça mérite débat, peut-être.
Ça mérite débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans la chasse à l'homme, Jean Dorido?
Vous savez, il y avait cette fable de La Fontaine, enfin, c'est qui a donné ce dicton, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage.
Oui.
Et je me demande quand même à force si Sandrine Rousseau n'a pas un problème avec la gente masculine. Vous voyez, elle serait misandre pour le coup.
Je vais un peu Philippe la défendre Bilger. Tout à l'heure. Je crois qu'on viendra sur le
point. Absolument, on reviendra dessus.
Le problème de Sandrine Rousseau, c'est que ça n'est pas une imbécile.
Elle dit
des choses provocatrices mais qui me font réfléchir.
Et si j'osais, je dirais cher connard, alors ce n'est pas bien sûr à vous que je le dis, Philippe, c'est pour citer le nouveau livre de Virginie Despentes, exactement. Et je pense que Sandrine Rousseau devrait le lire parce que ça l'aiderait à développer son point de vue sur
je
le.
Pas trop
non,
aimé.
Non. Mais Sandrine Rousseau.
Parlons-en à l'occasion.
Moi, j'aime beaucoup Virginie Despentes. Ouais. Elle aussi nous oblige à réfléchir. Non, je rejoins Philippe Bilger et je ferai une défense, notamment parce que sur l'entrecôte, parce que ça dit beaucoup de choses en réalité, la viande, etc. Mais Sandrine Rousseau, c'est quelqu'un, elle dynamite pas bêtement le débat public. Moi, c'est pas ma came, c'est pas ma tasse de thé, je vote pas vert, etc. Mais j'écoute parce qu'elle elle ouvre des points de vue un peu fracassants, certes, mais qui sont intéressants.
Françoise Degouin, vous avez marqué le premier point, des vraies voix.
C'est que le début.
Tiens, deuxième question, c'est beaucoup plus léger. Qu'a trouvé un habitant de Rudel dans le Lot dans sa piscine?
Un crocodile.
Pas loin.
Un serpent?
Non. Beaucoup plus gros.
Un sanglier, un ours.
Beaucoup plus gros.
Un éléphant.
Un
hippopotame.
Une girafe.
Une vache. Une vache de 600 kilos.
Ah, la vache.
600 kilos, voilà, qui a passé sa journée dans ce bassin. La mi-journée, ils ont fait appel au groupe de reconnaissance et d'intervention. En milieu périlleux, sont les pompiers qu'on salue d'ailleurs. Voilà. Et suite à la polémique Colantes à Fresnes, quel événement a été annulé dans une autre prison?
Ah oui, ça je le sais. Vous voulez fêter les 100 ans d'une prison.
C'est pas les 100 ans, mais c'est presque ça. Les 30 ans d'une prison.
Et vous voulez organiser un couscous ou...
C'est pas loin, c'est une pizza. C'est une pizza, ils sont une pizza. C'est Philippe Bilger. Vous nous avez...
Il a le point. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais il a le point.
Et effectivement, c'était les 30 ans de la prison de Saint-Quentin-Fallavier qui tombait à l'eau suite aux différentes polémiques de Fresnes. Ils se sont dit, oups, la boulette, on va la remiser par Devarment, on la fera
c'était
plus tard.
Une pizza ou des boulettes alors
Une pizza aux boulettes.
Si je puis me permettre quelque chose, honnêtement, l'hypocrisie générale, maintenant, on en est à interdire des pizzas parties dans les prisons parce que, honnêtement, ça fait vraiment partie aussi de la réinsertion. Ça fait vraiment partie. Quand Johnny Hallyday allait chanter dans les prisons, on disait rien. Moi, tous les gens ont posté cette merveilleuse vidéo de Johnny Cash qui chante dans une prison aux États-Unis. Vous comprenez, là, on est en train de, comment dirais-je, on instrumentalise quelque chose avec un bande d'hypocrites, de fauderges, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
Allez, une dernière question. Jean Dorido, si vous voulez marquer, c'est maintenant ou jamais.
Bon,
à Abu Dhabi, l'abondance n'est pas terminée. Qu'est-ce qui a ouvert dans cet émirat du Golfe Persique?
Attention.
Une boutique de caviar.
Hyper important.
Ah non. C'est énorme.
C'est beaucoup plus con que ça.
Une boutique de glace.
Non.
Ça a rapport avec les animaux.
Moi, j'ai vu un jour à Moscou des iPhones avec des diamants. C'est pas
non.
ça
Non.
Oh là là, mais ça, c'est fait depuis longtemps.
Une boutique de sous-vêtements, ils en mettent déjà.
Des os pour les ours polaires,
C'est un petit peu tout ça, finalement. Finalement, c'est une salle de sport pour les chiens climatisés.
Ah, mais c'est important, le sport.
On continue dans le développement durable. Moi, j'adore. On continue vraiment dans la préservation.
Mais on continue dans les idées innovantes.
Je suis d'accord, qui crée des valeurs.
Mais c'est bien.
C'est bon
bien
pour la
ça.
Planète.
Et le petit dernier, c'est pour moi.
Allez-y.
Qu'a offert Manon Aubry, donc l'eurodéputée et la France insoumise, à Rachida Dati lors des.
Le t-shirt sur les riches. Taxer les riches.
Exactement, taxer les riches.
Parce qu'elle était présente aux universités d'été de la fille.
Absolument. Et elle a dit en coulisses qu'elle allait l'offrir à sa fille et que ça lui ferait très plaisir.
Parce qu'elle a certainement voté Mélenchon, la fille de Rachida Dati.
Comme toutes les filles, comme tous les jeunes gens et les jeunes filles.
Elle vote pas encore.
Ah bon ?
Ah bah non.
En tout cas, elle adore Mélenchon.
Je crois qu'elle a 12 ou 13 ans.
Ce qui n'est pas votre cas.
La gagnante est Françoise de Gaulle.
Mais bien sûr.
Devant Philippe Bilger, un point, et Jean Dorido qui a pris, comme on dit, à la
plus grande. Vous aurez le droit de faire le barbecue.
Les derniers sont les premiers.
Vous aurez le droit de faire le barbecue.
T'as raison.
Tout de suite, bah justement, on va parler barbecue, ma
absolument,
chère Cécile.
Absolument, avec cette question du jour que je vous rappelle avec joie et bonne humeur, si j'arrive à faire mon code, voilà mon code de carte bleue. Comme Sandrine Rousseau, pensez-vous qu'une entrecôte cuite sur un barbecue est un symbole de virilité? Bah, pour l'instant, vous dites non à 93%. Pourtant, vous êtes assez fâché. Pourtant, encore le retour de Philippe David et on est content. Ça, c'est un petit mot gentil pour vous. Sandrine Rousseau, parce que vous savez, la sardine Rousseau, voilà, oui. Vous savez, le compte parodique.
Son compte a dépassé le compte officiel.
Et crétine, si elle est mariée, j'ose espérer qu'elle ne prenne pas de l'entrecôte à son mari. Enfin voilà, c'est assez virulent. En tout cas, on a hâte de vous entendre sur ce sujet et on démarre par Philippe Bilger.
Sur le barbecue. Moi, je trouve que, comment dirais-je, ça n'est pas parce que j'ai toujours été incapable de m'occuper des choses pratiques que je trouve que Sandrine Rousseau a totalement tort. Quand on regarde l'idéologie du barbecue, si j'ose dire, la manière de le faire, de le confectionner, d'aller acheter la viande, de faire toute une représentation autour du barbecue, j'ai l'impression, à partir de mes expériences, que c'est quelque chose d'éminemment viril, voire parfois de profondément vulgaire. Et je n'ai pas vu beaucoup de femmes s'occuper du barbecue. Donc je vois ce que veut dire Sandrine Rousseau, mais peut-être que j'aurais attaché ma réflexion à d'autres thèmes. Mais ça n'est pas absurde.
Restez avec nous, on revient dans un instant. Restez avec nous, on revient dans un instant. La suite des grands débats aujourd'hui, c'est avec les vraies voix. Je rappelle, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, vos appels 0826-300-300 avec cette question qui demande à être commentée comme Sandrine Rousseau. Pensez-vous qu'une entrecôte cuite sur un barbecue est un symbole de virilité? Vous dites non à 93%. Vous voulez nous en parler? Vous attendez au standard. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps.
Et voilà, c'est lundi, ça râle déjà chez les VV.
Oh là là.
Philippe Bilger est avec nous aussi Françoise Degois et Jean Dorido. Vos appels 0826-300-300, je vous rappelle la question du jour. On avait déjà un début de réponse de Philippe Bilger. Comme Sandrine Rousseau, pensez-vous qu'une entrecôte cuite sur un barbecue est un symbole de virilité? Ça n'a pas bougé pour l'instant. Vous êtes toujours 7% à nous dire que oui.
Je crois que je n'ai pas été assez saignant.
Oh, joli.
On va continuer à tailler
les bêtes. Ça y est, vous avez vu, le Philippe Bilger, le Philippe David s'est tenu 20 minutes à peu près. Là, ça y est, ça commence.
C'est Philippe Bilger qui a tiré le premier.
Non, mais parce que lui, c'est une certaine finale. Toi, t'arrives, on dirait.
Il va être le paradis de nos mots d'esprit.
C'est vrai. Non, mais toi, tout de suite, bam, 17h.
Non, on vous laisse la finesse avec Philippe. Nous, on garde la loi. Après vous, Jean.
Non, mais alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure, ce que je trouve assez...
Qu'on va rappeler pour tous les auditeurs.
Oui,
les
que
auditeurs
c'était très viril, le barbecue, finalement.
Que finalement, très viril, mais que ça vous permettait de réfléchir.
Bien sûr.
D'amener à la réflexion.
Et viril et vulgaire, en plus.
Ça peut aller jusqu'à la vulgarité lorsqu'on voit certains hommes autour d'un barbecue.
Toujours l'élégance avant tout. Non, mais ce que je trouve très étonnant dans les propos de Sandrine Rousseau, c'est que précisément, il y a un mouvement, je dirais, très, très heureux, très bienvenu, qui consiste précisément à déconstruire tous ces clichés dont on ne peut plus. On appelle ça en psychologie les stéréotypes, précisément. Vous savez, ces idées que les femmes n'auraient pas le sens de l'orientation, que les hommes, précisément, ne penseraient qu'au football et aux voitures. Et
pour l'orientation, je confirme.
Pour le moment, tout est juste. Hein.
Je valide.
Ça va pas être facile.
Les stéréotypes, ce sont des vérités consensuelles.
Pardon, raison de le rappeler, les vraies voix, c'est que précisément, on sait aujourd'hui, précisément en science, que nous avons tous deux bras, deux jambes, 23 paires de chromosomes par cellule.
C'est pas, et deux oreilles
ces prétendues différences genrées, elles ne reposent sur rien d'autre que des idées, précisément, des croyances qui sont communément partagées. Et c'est un vrai travail, quand on est soucieux, précisément, de l'égalité.
Mais ces croyances qui se révèlent justes, comment vous les expliquez? Parce que c'est vrai que c'est 100%.
Qu'on s'enferme.
Il a raison, Philippe.
Mais très précisément, elles ne sont pas justes, Cécile. C'est ça, précisément. Il y a énormément de femmes qui sont très très bonnes en mathématiques, qui ont le sens de l'orientation. Ouais. Il y a même des femmes qui sont pilotes de chasse et qui sont astronautes.
Non, mais donc, je plaisantais quand je disais ça.
Non, mais pardon. Alors, c'est vrai que je prends ces sujets très au sérieux parce que le drame, si vous voulez, c'est qu'il y a une partie du grand public qui croit dur comme fer en la véracité de ces stéréotypes genrés. Et ça, c'est un problème parce que derrière, vous avez des patrons qui font de la discrimination, qui vont vous dire, moi, je ne peux pas embaucher une femme pour diriger des hommes, par exemple, parce qu'elle ne sera pas crédible. Et je m'étonne que Sandrine Rousseau, si vous voulez, alimente ce genre de stéréotypes de genre, comme si tel ou tel type de cuisson appartenait à un genre plutôt qu'à un autre.
Il est malin, t'as vu. Il fait de la fausse défense, en fait. Il est en train d'essayer de déconstruire les stéréotypes pour finalement...
Je sens que le débat est à point. Qu'est-ce que vous répondez, Françoise Degois?
Mais n'importe quoi, ça va être saignant.
Là, c'est dans la finesse.
Non, moi je suis je redis que Sandrine Rousseau, et là-dessus je rejoins complètement Philippe Bilger, il a raison. Sandrine Rousseau, elle nous oblige vraiment à réfléchir. J'ai réfléchi l'histoire de la viande
et du barbecue. C'est pas fréquent que vous réfléchissiez.
Non, c'est vrai, je suis un peu débile. Et puis gauchiste, à la gauche, réfléchit pas, elle tape, hein, vous savez, hein, dans vos stéréotypes. Les gauchistes,
avec
ça
le couteau,
tape.
Couteau voilà,
et le couteau entre les dents.
Méfiez-vous, vous êtes à droite de la table. Hein, donc
je sais, mais on est toujours à la gauche de quelqu'un. Hein, c'est ça. On est toujours l'andouille de quelqu'un aussi. Hein.
C'est bon,
et donc. Délicieux. Comme
surtout
disait.
Barbecue.
Alors, je pense que la viande, il n'y a pas que l'idée du barbecue. Je rejoins, on a tous le stéréotype du barbecue, notamment, on est tous gavés par les séries américaines,
les films américains.
On voit le barbecue avec la bouteille de bière, les types avec les Stetson et Dupont-Lajoie aussi, et un peu vulgaire, un peu crade, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'idée de la viande. Et il y a un très bon bouquin qui s'appelle Steakissime, dans lequel une chercheuse, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le genre face à la viande. Pourquoi il y a si peu de femmes bouchères, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes...
Le président du syndicat des bouchers de Paris, c'est une vraie voix, c'est Véronique Lenglet.
Je le sais très bien, j'étais sûr que vous allez me répondre ça. Mais elle est une exception à la règle. Il y a de plus en plus de femmes bouchères. Parce que la viande, c'est synonyme de virilité. Pourquoi le véganisme est tellement attaqué? On rejoint ce que dit Jean sur les constructions comme ça, culturelles et stéréotypales. Pourquoi est-ce que le véganisme est attaqué? Parce que les hommes ont le sentiment, dans les études anthropologiques qui ont été menées, qu'on leur enlève de la virilité.
Mais parce que c'était un métier difficile aussi à la base.
Non, mais la viande,
il fallait porter la bête.
Bien sûr. Voilà. Et en plus de ça, il faut porter la bête. Et le boucher se situe aux frontières de la vie et de la mort. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il travaille avec des cadavres pour permettre de donner à manger des vivants. Ce qui ne correspond pas à l'image de la femme. Il y a une étude formidable qui a été réalisée en Australie là-dessus et qui est absolument remarquable et qui dit à quel point le rapport à la viande est genré. En réalité. Et cette anthropologue rappelle, par exemple, pour casser le stéréotype, que le plus grand, probablement, peuple guerrier, ce sont les Romains, la plus grande armée de Rome, 300 000 légionnaires. Vous savez qu'au point de départ, la viande était une nourriture qui était considérée comme impure. Et ce qui nourrissait la virilité, la mystique et la puissance, c'est la frugalité, du latin frugus, ce qui pousse dans votre jardin. Donc vous voyez à quel point, c'est-à-dire les légumes, les végétaux, vous voyez à quel point on a complètement basculé l'idée, si tu veux, viande, virilité, et c'est vrai, c'est inscrit dans nos gènes, véganisme, féminité. Et je trouve que là-dessus, Sandrine Rousseau, elle ouvre quelque chose d'intéressant.
Et même dans la quotidienneté, il arrive que dans nos déjeuners ou dîners agréables, on évoque très largement l'opposition de la viande et du poisson. Je me comprends comme certaines personnes ont défendu la viande presque au point de créer une rupture dans la convivialité qui nous est que trop naturelle.
Mais parce que, non, mais la viande est attachée pour des raisons totalement erronées à la virilité. Voilà. C'est quand même incroyable. Et dans le, pas simplement le barbecue, mais dans ses études anthropologiques. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire.
Et c'est certains... pour des raisons de régime.
Pardon. Est-ce que certains se disent, et ce, il nous reste une minute, est-ce que c'est un sujet politique?
Oui.
Oui.
Ben, c'est-à-dire
oui.
que ça ne devrait pas être un sujet politique, parce que typiquement, enfin, Sandrine Rousseau, si vous voulez, c'est le héros d'une espèce de gauche quinoa, d'une gauche végane.
Moi, je sais pas, j'adore la viande.
Et c'est important de rappeler qu'il y a.
Je mange jamais de quinoa, pourquoi une... il me regarde Je déteste le quinoa. Mais ça m'écœure, mais
je regarde François parce que cette tendance prend de l'ampleur à gauche depuis pas mal d'années, l'impulsion, entre autres, de Terra Nova et autres. Et il y a une gauche barbecue, ça a été très bien rappelé par Fabien Roussel, au moment des présidentielles, il y a une gauche bonne viande, bon vin, et c'est une gauche populaire. Et c'est vrai que Sandrine Rousseau manifestement a oublié.
Mais vous voyez comment vous les opposez.
Non,
mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant comment Jean, finalement, qui est supposé être l'incarnation de l'ouverture et de la déconstruction, continue avec le binaire et la caricature.
Ah ben non,
il y a la gauche, il y aurait la gauche de Fabien Rousseau, Roussel, et il y aurait la gauche. Et moi, je fais quoi? Moi, par exemple, j'adore le barbecue, mais j'en ai marre des centrales nucléaires, alors je suis où? Où est-ce que je suis calé?
Vous êtes de centre-gauche.
Mais vous êtes un socialiste à la mode de bois.
Mais vous comprenez ce que je veux dire? Honnêtement, moi je crois pas que... Même Sandrine Rousseau a des adversaires terribles. Moi, je le redis, je vote pas vert, je suis pas du tout écolo, mais elle nous oblige à réfléchir, et Sandrine Rousseau, par sa radicalité, se fait énormément d'adversaires, vraiment, même dans son propre camp, chez les écologistes.
J'ai le sentiment quand même qu'elle récolte ce qu'elle sème.
Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle ouvre comme débat.
Elle a des propos très outranciers, très caricaturaux.
Le mot de la fin.
Problème, c'est qu'elle dit parfois des pensées qui apparaissent provocatrices parce qu'elle ne les explique pas. L'homme déconstruit aurait mérité d'être explicité.
Il faut ouvrir.
Il y a des hommes déconstruits au point qu'il n'est pas utile de les rafistoler.
Cécile, la question que vous posez, pourquoi c'est politique, et là je rejoins ce que dit Jean, parce que ça entraîne aussi des réactions sociales. Mmh. Ça entraîne aussi de la discrimination sociale.
Ah, oui.
Ça entraîne aussi des choix dans les entreprises. Ça entraîne beaucoup de chose en fait, ces stéréotypes. Il faut vraiment les casser.
Eh bien, vous savez quoi, on y reviendra dans une autre émission, parce que visiblement, ça vous fait parler dans un instant.
Comme on dit à Toulouse, c'est un débat qui a envoyé le steak.
Oui, c'est ça.
Oh.
C'est ça.
Je dis ça.
Dans un instant, on reviendra sur cette information tout juste.
Vous n'avez rien changé, vous. Dans les vacances.
Le président Emmanuel Macron a été aperçu au Touquet ce samedi, accompagné de la Première Dame. Et malheureusement, lors de ce festival électro à la ville balnéaire du Touquet, il a été insulté, tout juste insulté par le DJ qui, en attendant, le maire du Touquet a demandé à ce qu'il rembourse.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix, version 2022, nouvelle saison avec Philippe David et nos débatteurs du jour qu'on aime beaucoup, Philippe Bilger, Françoise de Gouët, Jean Dorido, et vos appels 0826-300-300 avec cette question du jour. Le Touquet, faut-il rétablir le délit d'offense au président de la République? On va revenir sur cette information qui sera contextualisée tout de suite par Félix Mathieu.
Oui, les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Bonsoir Félix Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir Félix.
Il est spécialisé dans les happenings un peu trash sur scène. Le chanteur Marc Rebillet a copieusement injurié ce week-end le président Macron qui se trouvait dans le public du Touquet Beach Festival.
Oui, une injure répétée à plusieurs reprises sous les rires d'une bonne partie de l'assistance. Alors attention aux oreilles sensibles, c'est pas très joli. Le chef de l'État se trouvait, semble-t-il, dans les loges VIP du festival. Il passait à se détendre un peu après son retour d'Algérie. Mais le torrent d'injures sur scène qui a provoqué des réactions indignées à l'artiste a pris en otage le festival. A même réagi la directrice du Touquet Music Beach, France Leduc, dans La Voix du Nord. Alors cet artiste franco-américain de 33 ans, Marc Rebillet, il s'était déjà fait remarquer en 2018, notamment en insultant Donald Trump avec des mots un peu similaires. Il avait ensuite soutenu les Gilets jaunes en appelant à la démission d'Emmanuel Macron à Paris. Marc Rebillet, connu aussi pour ses confinements, ses directs pendant le confinement, ses prestations en peignoir et en caleçon. Il se filmait, c'est un peu comme ça qu'il s'était fait connaître.
Ah bah comme Philippe Bilger.
Voilà, depuis son appartement new-yorkais.
Bon, ça, d'ailleurs, pourquoi mais vous avez vu, vous avez regardé Philippe et vous avez rigolé voilà. Quand il a dit ça.
Oui, j'ai rigolé.
Il a une once de doux.
Mais je ne suis pas sûr qu'il faisait des directs dans la même tenue durant le confinement. C'est plus ça qui m'amuse.
En tout cas, une séquence qui aurait constitué un délit pénal il y a quelques années, avant la suppression du délit d'offense du président de la République.
Oui, souvenez-vous, une polémique était venue à bout de ce délit d'offense à l'époque de Nicolas Sarkozy. Tout était parti d'une petite phrase lâchée par le président Sarkozy à un passant hostile croisé dans les allées du salon de l'agriculture. Casse-toi, pauvre con. Une petite phrase qui avait été retournée quelques temps plus tard lors d'un déplacement à Laval contre Nicolas Sarkozy. Un militant du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait brandi une pancarte « Casse-toi, pauvre con » sur le passage de la voiture présidentielle. Sauf qu'il avait été arrêté, poursuivi pour délit d'offense au président. L'homme risquait 45 000 euros d'amende en vertu de cette loi de 1881. Finalement, bon, l'amende a été plus symbolique qu'autre chose. 30 euros, mais bon, tout de même, la Cour européenne des droits de l'homme s'en est mêlée à condamner la France en considérant finalement que ce délit d'offense au président de la République, il pouvait être un peu dissuasif en matière d'intervention satirique. C'est pour ça que cette loi a été retirée depuis. Bon, reste quand même l'injure publique, un délit qui de toute façon ne dépend pas de la fonction de la personne insultée.
En tout cas, ça fait réagir sur les réseaux sociaux avec cette question. Faut-il rétablir le délit d'offense au président de la République? Pour l'instant, vous dites oui à 16%. Donc c'est pas très populaire comme question. Avec Jackie qui nous dit toutes les fonctions doivent être respectées, de surcroît celles aux plus hautes responsabilités, mais il faut admettre qu'Emmanuel Macron ne fait pas d'efforts pour l'être. Et Ludovic qui nous dit « Nous avons un problème de respect d'un côté et de désacralisation de l'autre, voire également d'offense. Mais est-ce que l'offense, comme la haine, est qualifiable? À mon sens, on doit atteindre la liberté d'expression mais en restant respectueux de manière bilatérale. » Voilà.
Philippe Bilger, est-ce que quelque part, je vais me faire l'avocat du diable, ce délit qui existait auparavant, le délit d'offense au président de la République, c'était pas un peu la réminiscence du crime de lèse-majesté sous l'ancien régime?
Sûrement, et donc, moi je suis ravi qu'il ait été supprimé le délit. Mais aurait-il été maintenu? Et c'est l'interrogation fondamentale que j'ai. Je suis persuadé qu'on l'aurait peu utilisé. Et notamment, on ne l'aurait pas utilisé dans cette affaire. Et on a le droit de se demander pourquoi. D'abord, il me semble que c'est un rapport. Félix,
non, c'est la techno.
Pardon,
vous voyez la différence
entre
rappeur techno.
On arrête l'émission. Voilà.
En fait, il y a une dégradation du savoir-vivre collectif. Ouais. Ensuite, il y a une sorte d'immunité du milieu artistique prétendu ou réel. Troisième élément, il y a une peur panique de la sanction. Je crois que aujourd'hui, plus personne n'oserait introduire une poursuite pour des faits de cette nature. Et précisément aussi parce qu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Et là, je trouve le procédé très injuste parce qu'on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, mais les phrases qui ont visé, ciblé les Français étaient dures, vigoureuses, mais n'avaient rien à voir avec le « casse-toi, pauvre con ». Et donc, pour aller vite, je trouve que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on est complaisant à l'égard de telles phrases.
Vous voulez d'ailleurs réagir à ce sujet, si vous êtes choqué ou pas, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300, ou autre prendra votre appel. Françoise de Goix, est-ce que quelque part, on a toujours vu des présidents se faire insulter, même De Gaulle, quelqu'un lui avait dit « mort au con » un jour dans la rue, et ça fait 60 ans. Mais est-ce que quelque part, là, c'est pas quelqu'un qui est payé par de l'argent public parce qu'il fait un festival et que là, on passe vraiment un échelon? C'est pas un quidam lambda?
Oui, moi, je pense que quels que soient les griefs qu'on ait en politique, on peut pas faire ça. Là, on est dans le domaine de l'injure. C'est injurieux, c'est de la provocation. Ce qui est étonnant, c'est de voir en plus cette foule qui reprend. Ouais. C'est ça qui est... voilà. Après, donc ça, c'est condamnable, ça n'est pas acceptable quand on fait de la politique. Après, Emmanuel Macron doit s'interroger sur pourquoi on en est arrivé là, le concernant. C'est un vrai sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe Bilger, quand vous dites Emmanuel Macron, c'est plus soft. Vous dites toujours cette expression que j'aime beaucoup, c'est en velours, Emmanuel Macron. Mais c'est d'une violence. Quand le président de la République dit j'emmerde les non-vaccinés, c'est très violent. Emmanuel Macron a un comportement extrêmement arrogant, en tout cas qui donne le sentiment qu'il n'a aucun respect pour ses concitoyens ou qu'il n'en tient pas compte. C'est ça qu'il porte, qu'il génère. Ça ne veut pas dire qu'il il faut excuser ce qui s'est passé, et moi je ne l'excuse absolument pas, je crois pas qu'il faille rétablir ce délit, mais je pense que s'il peut rembourser sa prestation, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est, ça lui fait les pieds, on ne fait pas ça, mais le deuxième aspect qu'il faut voir, je ne les corrèle pas, hein, parce que je veux pas donner raison à Marc Rebillet, c'est hors de question de faire ça, mais Emmanuel Macron, de son côté, doit s'instruire de ce qui se passe, le concernant. C'est vraiment, il y a quelque chose sur cet homme, depuis le début du quinquennat, qui ne fait, de mon point de vue, que s'aggraver. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'enfer, c'est pas les autres. Tout, c'est tout nous. Les autres sont un miroir de ce que nous sommes. Et la réalité, c'est que s'interroger sur pourquoi je génère cela ? Pourquoi ma personnalité génère cela ? Mais ça, c'est un vrai sujet.
Est-ce que c'est pas Jean Dorido ? Est-ce que c'est pas finalement l'escalade ? C'est-à-dire qu'on jette des tomates, on l'insulte, bientôt on met une claque.
La claque,
bientôt,
oui.
on y viendra vraiment aux mains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire que quand on parlait de désacralisation de la fonction, on est dedans, en fait, finalement.
Alors là, on est en plein dedans. Donc là, effectivement, chacun peut balayer devant sa porte, parce qu'Emmanuel Macron, comme d'autres avant lui, a participé à cette désacralisation
exactement.
De la fonction.
Tu raison.
Toutefois, on parle d'abolition là, de cette loi d'insulte au président. Je regrette profondément depuis longtemps qu'on ne rétablisse pas, vous savez, la loi concernant les duels. C'est ouais. Gaston Dufer qui avait participé au dernier duel. Oui, parce que ça me renvoie, vous savez, cette insulte qu'avait proférée Nicolas Anelka à l'entraîneur de l'équipe de France.
Alors, il ne l'avait pas dit.
Il ne l'a pas dit,
on
justement.
On a appris après qu'il l'avait
pas dit. Là, vraiment, ça a été dégueulasse pour Anelka parce qu'il n'a jamais prononcé cette phrase, c'est épouvantable. C'est vraiment indigne.
Il en a dit d'autres.
Non, mais celle-là qui fait la une de l'équipe, c'est faux.
On ne prête qu'aux riches. Toutefois, je trouve que ce délit.
Heureusement que tu n'es pas procureur, la vache.
Ce délit d'offense, il n'existe plus. Et aujourd'hui, quand une personne est insultée par qui que ce soit, elle n'a pas de solution en réalité que de proférer d'autres insultes. Et cette tradition des duels qui avait toujours existé, qui revient d'ailleurs à travers le MMA, vous savez, le free fight. On a maintenant, notamment chez des rappeurs ou autres, des personnes qui se défient.
Attends, Jean, on se tue pas. On est d'accord. Un faux duel. C'est-à-dire que t'arrives, Emmanuel Macron.
Une confrontation physique qui puisse quand même permettre de retrouver cette espèce de panache, de dire écoute, je te propose qu'on en parle.
Alors donc, je vais te souffleter. Imaginons Emmanuel Macron, hop, au touquet qui va, monte sur scène. Il envoie son gant et son jabot. Il dit défions-nous sur la plage du Touquet au char à voile.
Mais là, on désacralise encore plus. C'est vrai que le président devrait s'interroger sur les raisons de cette haine, mais c'est très difficile pour lui. Parce qu'en réalité, il me semble, à tort ou à raison, que les détestations contre les anciens présidents avaient toujours peu ou prou une nature politique. Alors que là, il me semble que c'est son être lui-même qui, en permanence contesté, dénigré, vraiment dévasté parfois, et que c'est très difficile pour un être qui ne doute pas de sa qualité de s'interroger en disant il y a quelque chose qui se produit.
Mais ce serait quoi la bonne posture ? Parce que c'est ça aussi la question. Parce que là, on lui dit qu'il n'est pas empathique.
Vous avez raison, c'est quoi la bonne difficulté, c'est qu'il devrait changer lui-même.
C'est impossible. Il peut s'inspirer pour le coup de Jacques Chirac encore une fois, parce que lui avait beaucoup d'humour, et pour la même insulte, un jour, quelqu'un l'avait traité vraiment de ce même mot terrible.
Non, il avait dit connard, il avait répondu enchanté, moi c'est Chirac, en lui tendant la main.
Ah, j'étais resté sur...
Mais ça n'est pas du tout le même registre. C'est ça le problème.
Non, mais on touche à ce que vous dites, Philippe, je suis d'accord, c'est très difficile. On voit bien la difficulté que nous avons, nous, à réformer notre propre vie, notre propre façon de penser, c'est vachement dur.
On y arrive parce qu'on n'a rien à faire.
Mais on y arrive même très difficilement. La révolution humaine d'une personne, c'est très difficile. Alors imaginez quand en plus vous dirigez un État. Donc, bon, on ne fait pas de la psychanalyse de comptoir, ce n'est pas le sujet, mais la réalité, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, ce changement-là personnel, ce j'ai changé, fait. Je crois qu'on le verra jamais d'ici la fin du quinquennat parce que ça paraît impossible.
Je voudrais poser une question, comme on a un éminent juriste avec nous.
Non,
est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron pourrait porter plainte pour injure publique, par exemple?
Il pourrait, bien sûr.
Les citoyens en élèvent.
Oui,
bien sûr.
Mais est-ce que, politiquement, ce serait porteur?
Ah non, ce serait maladroit.
Ah bah oui.
Bien sûr.
Oui.
Moi, je sais pas. Et d'ailleurs, ça devient. C'est là où la vulgarité ou je dirais la grossièreté sont protégées par le ridicule qu'aurait celui qui les poursuivrait. Ça devient très intéressant.
Il y a deux écoles. Il y a la provocation, parce que soyons clairs, le DJ c'est de la provocation. Après, il est engagé politiquement ou pas, peu importe. Et il y a la vraie colère des Français qui, eux, à un moment donné, n'en peuvent plus et pètent un plomb et sont capables de dire n'importe quoi.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut voir. Moi, je suis d'accord. Il y a deux mesures. Il y a deux aspects qui sont tout à fait différents. Je pense
qu'il faut gérer différemment.
Qu'il faut gérer différemment. Il me semble, moi, qu'on devrait rentrer. J'en parlais avec des amis socialistes et je leur disais. Et
jusqu'à vous avez encore des amis,
bien sûr, beaucoup. Et je leur disais jusqu'à quand
ils ont tenu dans votre appartement.
Qu'est-ce qu'ils sont méchants.
Est-ce qu'on peut en appeler un, au moins un? Non.
On va appeler Olivier Faure de ma part. Vous verrez s'il répond. Je ne sais pas, il doit être en train de travailler parce qu'il ne peut pas être premier secrétaire à plein temps. Il n'y a plus rien à faire. N'importe quoi, vous.
Vous disiez quoi, ces amis?
Je leur disais. Je disais également à mes amis de la France Insoumise, je disais jusqu'à quand allez-vous accepter c'est comme, comment dirais-je, qu'on bave sur vous en permanence sur l'antisémitisme. Moi j'ai entendu des trucs, mais pas chez nous, hein, mais j'ai entendu des trucs cet été sur des chaînes dont je tairai le nom, mais c'est quasiment des accusations d'antisémitisme contre la gauche en général. Non, je dis ça, que moi je pense qu'à un moment donné, il y a l'aspect laissons glisser, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il y a l'aspect procédurier. Et je me demande dans quelle mesure Emmanuel Macron devrait pas, en tant que citoyen Macron, porter plainte en disant écoutez, là, c'est hors de question, ça accepte pas. De la même manière que... parce que la dérive, elle est aussi dans le débat public, elle est aussi dans la façon dont les gens ont d'analyser et de commenter. Et je suis assez favorable à un moment donné, à systématiquement déposer plainte chaque fois qu'un commentateur, un présentateur, ou je sais pas qui, sorti de je ne sais pas où, se permet de raconter n'importe quoi sur des formations politiques. Je serais assez favorable à ça.
Une question, Jean Dorido, je pense que ce sera le mot de la fin. Est-ce que finalement, c'est pas devenu aujourd'hui, n'importe qui peut être un exutoire, y compris un président de la République, un Premier ministre, vous voulez.
N'importe qui, et surtout président de la République. Je reviens à ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure, et aussi Françoise, sur le fait de cette aptitude qu'aurait notre président à déclencher l'hostilité. Pour paraphraser Claude Bernard, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une telle détestation de tout ce qui représente le pouvoir, de tout ce qui représente les institutions dans notre pays, que je dirais Emmanuel Macron, à mon sens, paye pour les autres.
Je crois pas, moi. Je crois que c'est vachement lié à sa personnalité.
Pardon de le rappeler de façon vraiment, enfin, complètement d'une part stérile, profondément choquante. Je veux dire, on touche le fond, quoi. D'entendre, j'avais pas entendu ce monsieur.
Ouais, c'est violent. Hein.
Mais, c'est violent. Et puis, enfin,
les mots
me manquent pour décrire l'obscénité de tels propos.
Ouais.
En plus, ça a un vrai caractère homophobe. Guillaume Dustan, le regretté Guillaume Dustan le rappelait, ce qualificatif.
C'est une pratique sexuelle.
Et le fait qu'il soit insultant, ça en dit long sur le niveau d'homophobie dans notre pays. Et je trouve qu'on n'est même plus à toucher le fond, on est en dessous du fond.
Je suis d'accord avec vous.
Et je regrette que les Français ne s'en choquent pas davantage.
Alors en tout cas, Jean Dorido, vous avez certainement aidé à ce que ce sondage se modifie, puisque on est passé de 7% de oui à 16%, avec Isabelle qui nous dit ne pas rétablir le droit d'offense au président de la République, mais il faut rétablir un président respectable et il sera respecté de fait. Voilà, comme ça.
Donc ils sont d'accord avec nous plutôt.
Voilà, absolument d'accord avec vous, mais voilà, ça se contrebalance.
Bonjour,
enfin, c'est vraiment léger.
Bonjour, la dictature.
C'est l'histoire de dire que ça va bouger. Restez avec nous dans quelques instants. On vous a pas tout dit, hein.
Bon,
il y a encore des choses.
On a encore plein de choses
vos
à raconter.
Appels 0-826-300-300. Vous voulez débattre avec Les Vraies Voix? On vous attend au standard. On est ravis de vous retrouver. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h avec eux.
Oui, avec eux, et ensemble, après 19h, les vraies voix de la citoyenneté.
Vous avez vu comment vous êtes. Vous nous foutez dehors après pour l'acteur. C'est vraiment dégueulasse. Ils sont vraiment, vous êtes ignobles.
Non, on prend soin de vous. A tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et on est ravis de vous retrouver, les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise de Gouin, Jean Dorido. Vos appels 0826 300 300, si vous avez envie de débattre. C'est vrai qu'ils disent beaucoup de choses, mais on a aussi envie de vous entendre, puisque cette émission, c'est Parlons Vrai. Donc c'est vous, les auditeurs, qui venez en tout cas à la rescousse et apporter un peu de votre quotidien. On aime bien ça. En attendant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux.
Et c'est avec Félix Mathieu. Félix, cette sordide affaire Pogba en top tendance sur Twitter.
Oui, enquête ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée. Le champion du monde de foot, Paul Pogba, se dit victime de cette tentative d'extorsion. Une bande de maîtres chanteurs à laquelle appartiendrait son frère, mais aussi des amis d'enfance de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, qui lui auraient réclamé 13 millions d'euros. Alors, on apprend l'ouverture d'une enquête alors que hier, son frère Mathias Pogba promettait des révélations via une vidéo sur les réseaux sociaux.
Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba.
Et ces révélations, les voici, ses proches ou anciens proches en tout cas de Paul Pogba l'accusent d'avoir utilisé notamment un marabout, non pas juste pour se protéger de ses blessures, mais pour jeter des sorts, disent-ils, à ses adversaires. Accusation de sorcellerie, donc. Quand tout sera dit, les gens verront qu'il y a plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre, menace par exemple sur Twitter Mathias Pogba à propos de son frère. Mathias Pogba, lui aussi footballeur d'ailleurs. Quant à la plainte de son frère Paul Pogba qui le vise, le frère Mathias partage l'info avec ce commentaire, hein, je le cite toujours. « Ce que j'attendais est arrivé, mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage, puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher. » Voilà une affaire assez nébuleuse et absconse, donc, ressort quand même de tout ça aussi, d'après nos confrères de Radio France, eh bien, c'est que le footballeur pourrait avoir vu des proches se retourner contre lui après qu'il ait arrêté de les aider financièrement. Selon ses déclarations à la police, il aurait expulsé de sa maison près de Manchester un proche qu'il hébergeait sur place après que celui-ci lui ait volé de l'argent en utilisant sa carte bancaire.
En tout cas, sur les réseaux sociaux, les tweets de Mathias Pogba sont accueillis avec des commentaires assez incrédules.
Oui, alors autant vous dire que certains sont dans le délire complet. Par exemple, des tweetos qui partagent des vidéos de matchs dans lesquelles Paul Pogba fait des pas de danse sur le terrain pour célébrer un but.
Quelle précision !
Vidéo partagée par exemple avec ce commentaire pour interpréter la chorégraphie de Pogba, je cite « Pogba qui fait quatre célébrations pour donner le signal à son marabout de lancer des sorts contre Mbappé ». Voilà, il y a aussi des commentaires en réponse aux accusations de Mathias Pogba sur le thème « Je comprends tout simplement rien à vos histoires ». C'est vrai que c'est dur à suivre. Des commentaires amers aussi sur le plan purement sportif quand même, à l'image de Yaz qui répond « Cette affaire quelques mois avant la Coupe du Monde, la recette idéale pour sortir dès les phases de poule et être la risée du monde comme en 2010 ».
Merci beaucoup Félix Mathieu, beaucoup d'amateurs de foot ici, Françoise de Gouin, Philippe Bilger.
Le beau
Philippe...
absolu.
Ouais.
vous me demandez, c'est Félix. Moi, je trouve. Oui, mais là, il est juste en ce qui me concerne. Là, il y a le.
Qui roule au diesel et qui fume des cloques en plus.
Mais sérieusement, c'est terrible de voir le frère qui est gangrené à la fois par la jalousie sportive. Vous l'avez rappelé, Félix, c'est un sportif, mais qui n'a pas le niveau de Paul. Et d'autre part, le goût du lucre. Et je crois volontiers à cette bande pour l'extorsion, même si on n'a pas de conviction décisive sur le plan judiciaire. C'est assez navrant.
On peut croire aussi à la sorcellerie, au marabout. Pour comprendre et peut-être essayer d'éclairer cette affaire, il faut voir absolument le documentaire sur Canal+, filmé par Olivier Dacour, sur Ma part d'ombre, où il interviewe des anciens footballeurs.
Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que c'est un ancien grand footballeur, Olivier Dacour.
Et donc, Olivier Dacour a interviewé Emmanuel Adebayor, je crois, qui jouait à Metz.
Arsenal,
mais à Metz. Et dans cet extrait qu'il a diffusé ce matin et que je trouve remarquable, il y a Emmanuel Adebayor qui explique comment sa famille et lui se sont déchirés à cause de l'argent qui arrive à flot. Il se retrouve dans une situation où sa mère, sa sœur ne le croient pas quand il dit « Mais moi, j'ai donné de l'argent à mes frères. Mais non, mais tes frères disent que non. » Il va même jusqu'à penser à se suicider. Il explique devant la caméra de Olivier Dacour qu'il avait des cachets, qu'il a pris des cachets, que finalement il a renoncé, mais qu'il était poussé dans ses retranchements de voir sa famille ne pas le croire, sa famille déchirée par ce flot d'argent qui arrive. Donc moi, ça m'a vraiment, ce que ça m'inspire, c'est beaucoup de chagrin, parce que
Abel et Karin, ça l'Andro l'a très bien expliqué hier soir sur mon émission préférée, le Canal Foot.
football.
Eh ben, moi, j'ai trouvé ça très, je trouve ça très fort et je comprends que l'argent rend fou, en fait.
Jean Dorido, c'est vrai que la question de l'argent pour des gens qui viennent de milieux pas particulièrement bien favorisés, sûr. Et en France, ils sont plutôt favorisés par rapport à ceux qui sortent des favelas au Brésil ou des bidonvilles en Argentine. Ça rend fou.
Ah bah de toute façon, quel que soit le milieu d'origine, chez les footballeurs, il y a un tel niveau d'argent que ça pourrait rendre fou n'importe qui. L'argent, c'est un bon serviteur, un mauvais maître, comme le rappelle la formule. Et c'est vrai que ça peut faire hélas tourner les têtes. Et puis tout à l'heure, Françoise mettait Sartre en faux en disant que l'enfer, ce ne sont pas les autres. En tout cas, l'enfer, hélas, c'est quand même souvent la famille, parce qu'il y a énormément de rivalités.
Les amis, il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui ont été trahis par des amis qui se sont
Benzema et l'affaire de la cassette.
On n'a jamais trahi que par les siens, de toute façon. Ça, c'est un grand classique. Et c'est un fait que dans la famille, il y a toujours, depuis la naissance, énormément de rivalité, énormément de compétition. Et ça peut arriver à des extrémités.
L'enfer, c'est quelques autres.
Non, moi, je pense que l'enfer, c'est soi-même.
Non,
je pense que les autres sont le miroir de nous-mêmes. Enfin, ça, c'est une grande théorie que nous élaborerons un autre jour. Mais j'ai beaucoup de peine pour cette famille. J'ai beaucoup de peine pour ces familles. Et en même temps, voilà, le maraboutage, c'est quelque chose d'assez classique en Afrique. Je vais voir mon
marabout. Il y a deux choses. Il y a le chantage, qui est quand même très grave, chose, et le maraboutage, qui est autre chose.
Oui. Le maraboutage, je rappelle que Mathias Pogba menace de révéler des SMS dans leur boucle privée, dans lequel Pogba demande à un marabout très connu de jeter des sorts à Kylian Mbappé. Donc ça pose aussi un problème de cohésion de l'équipe.
Non, il n'a pas été mauvais, il a pris le poteau. Vous n'avez pas marqué à chaque
fois. Non, on ne va pas commencer les commentaires du PSG.
Est-ce que vous ne croyez pas, ça va être le mot de la fin, que ça pose quand même question à 3 mois et demi de la Coupe du Monde, parce que vous imaginez l'ambiance quand ils vont arriver au rassemblement de l'équipe de France entre Pogba et Mbappé, si les infos sortent et qu'elles sont avérées.
Est-ce qu'il faudrait sélectionner Pogba? Moi, je trouve qu'il est trop lent.
Alors, est-ce qu'il faudrait sélectionner Pogba?
Il est capable
de faire des choses juste exceptionnelles. Sur un coup de pied, il change un match. Mais question, c'est
est-ce que c'est à faire?
Alors, j'allais revenir à ça. Non, vous avez raison. Noël Le Graët, pour le moment, dit il ne faut pas que ça interfère. Jusqu'au moment. Avec on le courage qui le caractérise, hein, si vous savez que Noël Le Graët, je trouve qu'il illustre parfaitement cette phrase de Jules Renard, vous la connaissez, n'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien.
Et ben voilà. Ce sera le mot de la fin. Restez avec nous, on revient dans un instant. La suite des grandes voix, des vraies voix en tout cas, c'est dans un instant. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, Philippe David, bien entendu, et vos appels 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et merci de nous retrouver, merci de votre fidélité à Sud Radio. Dans un instant, on va revenir sur les 50 ans après un nouveau programme. Artemis doit à nouveau conduire des hommes vers la Lune, horizon 2025. On en parlera avec Philippe Perrin, spationaute, et Olivier Sangui, qui est responsable d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Mais en attendant, le mot du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour.
Et le mot du jour, Philippe David. Peu importe. C'est festival.
Le retour du mot du jour, oui. Le mot du jour est le mot festival, puisque c'est la fin de l'été et donc la fin de nombreux festivals. Festival vient de l'anglais festival, qui vient du vieux français festival, qui signifie période de fête, fête musicale, qui vient du latin festivus, qui veut dire où il y a fête, divertissant. Ce serait Hector Berlioz qui aurait remis le mot à la mode en France en 1830. Vous pouvez donc en déduire que ce mot du jour est une symphonie fantastique écrite par un virtuose.
Oh. Pas mal.
Oh. Et le type, comment il pense à lui, tu sais. Déjà, ça commence.
Sur Sud Radio.
Oh, l'été, ça ne vous a pas arrangé.
Sur Sud Radio en général et dans les vraies voix en particulier, on aime les festivals. Mmh. L'été avait commencé avec Yvan Cujous et l'équipe du Loft en direct des Francopholies de La Rochelle. Mmh. Et s'est poursuivi avec Guy Carlier, nous racontant les vacances de Patrick Roger.
Je suis tellement heureux à l'idée que la direction de Sud Radio ait octroyé ces quelques jours de congé à Patrick Roger, tant il était désireux de participer au stage pétanque et naturisme qui débute aujourd'hui à Ramatuelle.
C'était le festival auquel participait Patrick Roger.
Et il a les boules, Patrick.
Oui,
vous
pétanque et naturisme, le festival où l'expression avoir les boules prend toute sa signification.
Absolument.
Et nos VV ont toutes participé à des festivals cet été. On commence par Philippe Bilger, qui s'est comme d'habitude rendu au festival sadomasochisme et barbecue. Où il a remporté la cravache d'or pour avoir triomphé dans l'épreuve reine. Vous connaissez l'épreuve reine du festival sadomasochisme et barbecue?
Non, la brochette.
Alors justement, il consiste à s'asseoir vêtu de cuir et de clous sur un barbecue. Sur un barbecue qui vient de griller 650 merguez et chipolata pour les participants et d'y rester assis le plus longtemps possible en recevant un festival de coups de fouet par une flopée de maîtresses dominantes.
Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une Sandrine Rousseau.
Mais comment ça vous vient,
c'est chaud. Elle est venue en pleine nuit, celle-là.
J'aurais plutôt mangé.
Alors justement, je vais dévoiler quelque chose sur la vie privée de Philippe Bilger. Le seul SMS qu'il m'a envoyé cet été a été le suivant. J'ai eu chaud aux fesses, mais j'ai gagné, qui résumait le faible écart avec le gagnant de la cravache d'argent. Françoise Degois est allée chez elle à Lourdes pour le festival Make la gauche great again.
Il faut au moins un miracle.
Lourdes qui s'imposait, puisque pour ce faire, il faudrait immerger l'ensemble des dirigeants de la NUPES dans l'eau de la grotte de Massabielle pendant une durée aussi indéterminée que le mandat d'un député de cette législature.
Qu'est-ce que t'es méchant,
Madame Méchanceté.
Mais qu'est-ce que t'es méchant, ça la jalousie.
Pour le moment.
Tout ça parce que vous avez des cheveux et qu'il en a pas.
Alors pour le moment, ma chère Françoise, vu le peu de résultats constatés aux universités d'été, il doit y avoir un organe génital mâle dans la garbure. La garbure étant le plus emblématique des potages pyrénéens.
Oui, c'est ça. On peut faire la traduction. Il y a une couille dans le fromage ou dans la barbure.
Enfin, Jean Dorido.
Quelle garbure.
Et bon appétit.
Mais comment tu peux réfléchir à des trucs pareils?
Jean Dorido s'est rendu au festival Psychologie et Énergie Renouvelable. Un festival où il faut produire avec son corps un maximum d'énergie sans produire de CO2. Vu ses attributs physiques qui avaient fait déclarer à Philippe Bilger après une soirée piscine des VV, cette phrase restée dans les annales.
C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi.
Notre docteur en psychologie a produit en version hélicoptère en plein air et hors bord sous l'eau autant d'énergie que l'ensemble du parc nucléaire français.
Ah, quand même.
Analysant ses performances, le PDG d'EDF a déclaré que si Jean Dorido se consacrait à la production d'énergie à temps plein, l'Europe entière éviterait la crise énergétique l'hiver prochain. Après, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Préparez-vous à... C'est du courant écolo, c'est du Dorido.
C'est pour la France, Philippe, je suis d'accord.
Bravo.
Quant à Cécile et votre serviteur...
Je pensais qu'il avait épargné pour la première.
Ce fut un festival de réunion Zoom avec Patrick Roger depuis Ramatuelle. Sa webcam étant toujours en panne, on ne sait pas pourquoi.
Non, on se demande pourquoi.
Je conclurai ce mot du jour en vous souhaitant un festival de bons moments en compagnie des vraies voix pour la saison qui commence.
Toi, t'étais à la fête à la saucisse, non? Non, c'était la fête à la chipot. Toi, je te sens bien au championnat du monde du cri du cochon. Tu sais, à Trie-sur-Balise. Je t'y vois, mais alors, comme si j'étais avec le béret.
On adore ça, Philippe David.
Merci, vous en aurez un par jour.
Eh ben, très bien. Et vous allez déglinguer comme ça tout le monde?
Oh oui, tout le monde.
Déglinguer comme vous y allez. Est-ce qu'on a le droit de faire des contre-mots du jour, nous?
Si vous voulez, j'aime beaucoup l'idée.
Merci. Est-ce que tu vois l'angle qui est en train de... Est-ce que tu vois le truc qui est en train de poindre la première émission, vous avez compris, j'espère.
Ouais, l'histoire est réglée. En fait, le problème de Philippe Bilger, c'est qu'il est tout seul à l'opposé. Donc il se dit, mais de quel côté vais-je aller?
Je suis en face de l'intelligence, donc il y a peut-être une contagion.
Allez, bougez pas, on va dans un instant avec les vraies voix, 18h12.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et c'est la nouvelle saison des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, Philippe David. Et vous, 0826 300 300, et merci pour tous vos messages d'encouragement pour cette nouvelle saison. C'est à la une de l'actu. Aujourd'hui, on parle de hiérarchie de l'info. L'information qu'il ne fallait pas manquer et qui est forcément à la une de Philippe Bilger. On parle de Salman Rushdie.
Voilà, Cécile, dans la mesure mesure où je suis un peu lent parfois sur le plan de l'activité conceptuelle, je n'avais pas compris.
Non, faut pas dire ça, déjà on comprend même pas la phrase.
Je n'avais pas compris en fait qu'il fallait prendre un sujet d'actualité.
Pas forcément.
Et donc j'ai pris Salman Rushdie. Et parce que si j'avais eu à établir une hiérarchie des événements durant les vacances, celui qui m'a tout de même le plus frappé, indigné, c'est l'agression contre Salman Rushdie. Parce que d'abord, ça a été terrible pour lui, alors qu'il pensait, comme l'a dit, je crois que c'est Bruckner, qu'il était protégé d'une certaine manière par l'impunité dont il bénéficiait depuis 30 ans. Le deuxième élément, c'est que ces gens ne lâchent jamais. Et j'avais tendance, comme d'autres, peut-être à dire maintenant c'est fini, on le voit partout, il participe à des colloques. Et non, il n'oublie pas, que ce soit par une influence directe ou par des influences indirectes. Et ça montre à quel point il faut les prendre au tragique.
Le 19 août, justement, Philippe Bilger, seulement une dizaine d'écrivains lui ont rendu hommage à New York. Est-ce que c'est très décevant ? Parce que lorsque c'est arrivé, effectivement, le monde culturel s'est emballé et là, pratiquement rien.
J'ai eu l'impression, Cécile, tout de même, c'est vrai, à New York, il y a eu peu d'écrivains, mais le 19 août, peut-être que la concomitance de cette date avec l'indignation a généré très peu de soutien. Mais en dehors de cela, il m'a semblé que tout de même, l'indignation était assez générale et très juste, très pertinente.
Oui, oui, ça a été un séisme quand même mondial, Salman Rushdie. Avec cette idée, moi je rejoins complètement Philippe sur l'idée de ne jamais se relâcher. Et parce que c'était inimaginable, il y a des questions qu'il faudra se poser sur sa sécurité à Salman Rushdie. On voit très bien comment le type arrive à
rentrer sur scène.
À monter sur scène.
C'est parce que
vraiment c'est le relâchement. Voilà. Il y a un moment donné, donc on ne peut jamais se relâcher. Donc moi je suis comme vous meurtrie, mais tellement heureuse alors de ce doigt d'honneur que fait Salman Rushdie en étant vivant et en n'ayant pas succombé à ses blessures.
Mais gravement handicapé, un œil en moins.
Je sais, mais quand même, quelle résistance,
vivant.
Quelle force et quel bras d'honneur à la folie islamiste.
Qui ont d'ailleurs étonné le tueur.
Le tueur a dit, je suis très étonné, c'est vrai.
Un mot, Jean Dorido, parce que quand même, il n'était pas né au moment de la sortie des versets sataniques, celui qui a pointé de l'assassiner. C'est la preuve que Philippe Bilger a raison, ça ne termine jamais.
Merci de le rappeler, Philippe David, parce qu'en fait, c'est le problème de cette fatwa particulière lancée sur Salman Rushdie, parce qu'en fait, j'ai appris à l'occasion d'ailleurs de ce terrible fait que les fatwas, en réalité, ça peut se lever.
Bien sûr,
c'est comme une décision de justice.
Mais il a essayé de la faire lever.
Dans les hommes politiques. Sauf que le souci, c'est que c'est l'ayatollah Khomeini qui avait décrété cette fatwa contre l'écrivain. Et si vous voulez, il jouit d'une telle aura dans ce monde particulier-là, l'ayatollah Khomeini, que personne finalement aujourd'hui n'aurait l'autorité suffisante pour lever cette fatwa et pour poursuivre ce que disaient Françoise et Philippe sur le relâchement impossible. Ce qui est terrible, c'est que cet attentat a rappelé à quel point Salman Rushdie n'a plus de vie depuis 30 ans.
C'est
parce
ça.
Qu'avoir
lui
une
et
sécurité,
d'autres, hein.
Et on a des Françaises et des Français qui vivent ça, des journalistes, des écrivains,
des
avocats, exactement,
Philippe Val,
qui vivent cette sécurité comme ça, H24, et c'est absolument effrayant et psychologiquement.
C'est une prison.
C'est c'est Salman Rushdie lui-même qui avait fini par dire, mais écoutez, mais lâchez-moi, laissez-moi vivre, même si je dois prendre le risque, je préfère, parce que ça n'est pas une vie. Un responsable de la sécurité chargé de l'équipe de Charlie Hebdo au moment où il y avait eu les caricatures rappelait à quel point c'est un protocole absolument inouï. Même pour aller acheter le pain, c'est un truc de dingue. Et donc, bien sûr, il faut
Le petit pas du quotidien est très lourd.
Mais c'est ça. Et ça rappelle à quel point c'est terrible, c'est pour ces personnes qui n'ont plus de vie à cause de la folie des hommes.
Petite réaction de Françoise avant de passer
Il était tellement lassé qu'il y a eu cette rencontre secrète avec des oulémas. Il a essayé de faire lever cette fatwa Salman Rushdie. Il a presque été à Canossa d'une certaine manière, mais dans le sens le plus noble du terme, pour dire je n'en peux plus, je ne peux plus vivre comme ça. Ça n'a pas été le cas, mais voilà. consignes de sécurité, tous les officiers de sécurité, moi j'en ai beaucoup rencontré bien sûr pendant mes fonctions ministérielles, mais tous les officiers de sécurité, l'autre jour je trahirai pas un secret en disant que je suis parti à Genève, pas pour planquer de l'argent, mais pour aller faire une émission télé avec quelqu'un qui est sous protection, et le protocole c'est juste que dans les WC, voilà, vous ne pouvez pas vous relâcher, il n'y a aucun endroit finalement sécurisé.
En tout cas, vous, Françoise de Gaulle, l'information qu'il ne fallait pas manquer et qui devrait faire la une, c'est les nationalistes à la conquête du pouvoir en Italie.
Les néofascistes même, parce que Giorgia Meloni ne s'en cache absolument pas. La Meloni, comme on dit en Italie, elle est assumée, elle assume l'héritage de Benito Mussolini. D'ailleurs, elle a pris sur sa liste aux européennes l'arrière-petit-fils du Duce. Elle ne manque pas une occasion de rappeler à quel point Mussolini a été un grand homme d'État. Elle a repris sur ses affiches la flamme classique, la flamme fasciste, qui était le symbole de Mussolini, mais elle est plus maligne que ça, c'est-à-dire qu'elle change un peu sur l'Europe. Elle est en tête, évidemment, avec Fratelli d'Italia, c'est-à-dire que...
Elle pourrait devenir la chef du gouvernement.
Oui, elle peut devenir, elle va devenir très probablement la première femme italienne présidente du Conseil. Pour les gens qui la comparent à Marine Le Pen, c'est une erreur. Giorgia Meloni, c'est plutôt Éric Zemmour, c'est-à-dire encore plus de radicalité que Marine Le Pen, anti-LGBT, anti- migrants, mais d'une façon encore plus virulente si vous voulez que Matteo Salvini, c'est comme ça qu'elle a gagné d'ailleurs, qu'elle a réussi à écraser Matteo Salvini, et puis quelque chose très libéral comme Zemmour sur le plan économique, elle est plutôt Marion Maréchal, Éric Zemmour que Marine Le Pen, mais aujourd'hui tous les sondages la donnent en tête à 26% derrière Salvini et derrière Berlusconi qui en échange de son vote pour qu'elle soit présidente du Conseil essaie d'arracher la présidence à vie du Sénat italien, donc là il y a une bascule. Pourquoi je dis que c'est très important? Pourquoi il faudra en parler? Parce qu'il y aura une répercussion directe. Le pays, l'Italie n'est pas un pays sous-développé. C'est la troisième économie européenne. C'est un immense pays fondateur de l'Union européenne. Si la Meloni gagne, vous verrez les répercussions directes sur la politique française avec Marine Le Pen.
Surtout qu'elle n'a pas beaucoup de sympathie pour le président Macron.
Ah, elle le déteste,
Moi, les portraits que j'ai lus sur elle montrent que c'est une personnalité très intéressante. Hein. Je veux dire, qui n'est pas, comme vous le dites très
bien...
Elle
n'est pas un repoussoir comme Zemmour, elle n'a rien à voir.
Elle n'est pas assimilable à tel ou tel.
Non, pas du tout. Moi, je l'ai vue en meeting, j'ai été la voir par curiosité, etc. Voilà, elle est redoutable et c'est une personnalité extrêmement charismatique.
Jean Dorido.
Non, c'est un fait que l'Italie, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait un bout de temps. Il y avait la Ligue du Nord à l'époque qui a progressé jusqu'à ce que Matteo Salvini justement finisse par devenir président du Conseil. Il a été éjecté, manifestement, ça revient. Vous me l'apprenez, Françoise de Gouas. Maintenant, c'est un fait, une vraie tendance dans plein de pays européens, de ces fameuses démocraties illibérales. On voit ce qui se passe en Russie avec Poutine. D'ailleurs, très bon livre à lire absolument, Le Mage du Kremlin, qui a été écrit par un franco-italien.
Bah, surtout, c'est le conseiller politique.
Très bien documenté,
c'est le conseiller politique de Renzi.
Rasputin de Poutine. C'est vrai que c'est assez anxiogène tout ça, et en même temps il n'y a pas manifestement de pays qui ait trouvé de réponse satisfaisante à cette tendance bien réelle.
En tout cas, vous avez bien fait de la ramener, Jean Dorédo, parce que on va revenir sur un sujet franco-français, le discours d'Emmanuel Macron sur l'abondance et l'insouciance.
Notre président, il a été insulté, donc il n'a pas besoin qu'on en rajoute. Non. Toutefois, c'est vrai que c'est quand même ce que j'ai retenu dans l'actualité. Ce discours du président, là, le 24 août, en ouverture du Conseil des ministres, qui explique que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance pour les Français.
Et des évidences.
Et je me demande bien où est-ce qu'il est allé chercher que les Français vivent dans l'abondance et dans l'insouciance. Vraiment, là, c'est une grande question que je me pose.
Excusez-moi, j'écoutais Marc Touati tout à l'heure chez Jean-Jacques Bourdin qui dit: moi je suis né en 70, j'ai connu le chômage de masse,
la crise
économique permanente.
Et
je vois pas où est l'insouciance de
Charlie
40 ans en France
et Bataclan.
Moi je vois pas où est l'insouciance.
C'est exactement ma réaction. Je me dis, mais alors donc en psychologie on sait que bien souvent chacun ne fait que parler de lui, et j'imagine qu'en fait le président parle de lui. On l'a vu sur son jet ski. Il n'y a pas très longtemps. Donc peut-être que lui a vécu dans l'abondance et dans l'insouciance toute sa vie, et il prend son cas pour une généralité, parce que manifestement, vous l'avez rappelé à l'instant, les Français ne vivent pas depuis longtemps, pour la plupart d'entre eux, ni dans l'abondance, ni dans l'insouciance.
Enfin, c'est pas non plus un pays des plus malheureux. Ouais,
je trouve que votre analyse est discutable, Jean, et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai eu rigoureusement la même. Emmanuel Macron est un intellectuel, je continue à le penser, et malheureusement, il raisonne par généralité. Je vois très bien ce qu'il veut dire par l'abondance, la fin des évidences et la fin de l'insouciance. Bien sûr, il est capable d'intégrer tout ce que vous venez de dire, mais ça révèle tout de même un manque très grave chez lui. Même lorsqu'un intellectuel profère des généralités qui sont assez pertinentes, il doit penser à ceux qui vont les subir au regard de leur quotidien.
Je vais répondre à ça, Philippe, parce que nous serons en désaccord toute notre vie là-dessus, et j'espère qu'elle sera très longue pour vous et pour moi. Nous serons en désaccord même après la fin du quinquennat, parce que vous continuez à penser qu'Emmanuel et Macron est un intellectuel. Je continue à vous dire que non, c'est un intellectuel en peau de lapin. Emmanuel Macron manie des concepts dont il ne maîtrise pas. Il s'est dit, tiens, abondance, etc. Ça va, c'est un concept. Ça n'est absolument pas un intellectuel. Il faut, là, s'il y a quelque chose à déconstruire, c'est la pensée complexe du président. Il n'y a aucune pensée complexe de ce président. Moi, ce n'est pas parce qu'il a fait un stage chez Lévinas pendant pendant deux mois et qu'il a pris des notes pour notre... Je ne comprends pas comment quelqu'un d'aussi intelligent que vous peut se faire attraper... mais peut se faire avoir par ce village Potemkin, par ce Potemkin de l'intellectualisme d'Emmanuel Macron. Il essaie de... C'est de l'intellectualisme dont on fait des flûtes pour souffler dedans.
On comprend très bien lorsqu'on analyse la situation géopolitique du monde depuis des années.
Il a dit n'importe quoi, mais il a dit n'importe quoi.
D'une certaine manière, on change d'air,
Mais arrêtez, on a eu le même discours sur le Covid, on a eu le même discours après la guerre, on a eu le même discours après le 11 septembre. Pour moi, la fin de l'innocence, c'est le 11 septembre.
Pardon d'assister Philippe Bilger, je trouve ça vraiment assez indigne de parler d'abondance et d'insouciance. On parle souvent de la déconnexion de nos hommes politiques. Je veux dire, Philippe David l'a rappelé à l'instant, il n'y a tellement de Français qui vivent dans la misère, plus de 10 millions de pauvres, 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France. Certes, nous ne sommes pas les plus malheureux, toutefois, il suffit d'aller à Stalingrad, à Paris, voit les craqueurs qui meurent comme des déchets humains dans la rue.
On les laisse
crever comme ça. Ils sont insouciants, ces gens-là, ils sont dans l'abondance, je ne crois pas.
J'ai compris ce que vous voulez dire, mais je pense que vous surinterprétez, parce que il y a quelque chose dans votre esprit qui est attaché à une forme de c'est comme si Emmanuel Macron était un personnage de roman, et en ce sens-là vous avez raison. À la Gatsby le magnifique, il y a quelque chose de fitzgeraldien chez Macron peut-être, mais la réalité c'est que c'est du toc. Ça n'est pas un intellectuel. Est intellectuel comme je suis une archevêque.
Pour cette première des vraies voix ensemble, Françoise de Goix a surévalué les qualités intellectuelles de Philippe Bilger.
Mais c'est pas vrai, j'ai pas dit ça.
Mais c'est lui qui l'a dit.
Qu'est-ce que vous racontez? Regardez. Vous vous souvenez de Détritus, le personnage dans la zizanie d'Astérix? Ça, c'est vous. Vous ne sèmerez aucune zizanie entre nous, Philippe David.
Gardons les pieds sur terre. Prenons seulement un petit peu de hauteur. On vous emmène dans la Lune dans quelques instants avec la mission Artemis vers la Lune avec Olivier Sanguy, responsable actualité spatiale, et Philippe Perrin, spationaute. Et ça fait bien rêver.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et avec Philippe David, vos appels 0826-300-300 et nos super éditorialistes du jour, les adorent. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goix, Jean Dorido, des applaudissements pour tous ces gens, bravo. Bravo, talent extraordinaire, merci.
Encore un peu.
Le Stade de France. Oh, mon Seigneur, mon Seigneur. Tout de suite, on vous parle de la Lune.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Vers l'infini et au-delà.
2 minutes, 10 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.
Comment voulez-vous qu'un monument pareil puisse s'élever dans les airs? Autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba.
3, 2, 1.
All engine running.
Ah, David Bowie, magnifique, merci.
Merci, Benoît.
Le réalisateur, c'est très beau.
Il y a 50 ans, en décembre 1972, décollait Apollo 17, la dernière mission vers la Lune. 50 ans après, un nouveau programme Artemis doit à nouveau conduire des hommes vers la Lune à horizon 2025. Une première fusée habitée de mannequins devait décoller aujourd'hui de Cap Kennedy, mais le vol a été reporté à vendredi. On va bien évidemment parler de ce report et de ce programme qui fait encore rêver.
Petit.
Les petits que les grands.
Des mannequins en plastique, hein, pas des mannequins haute couture.
Ouais. C'est important de le rappeler quand même. Des mannequins lituaniens. Voilà. Oui, et pour en parler ce soir avec nous, Philippe Perrin. Bonjour Philippe Perrin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes spationaute. Vous avez volé sur la navette Endeavour en 2002.
C'est ça.
C'est bien dit, hein, quoi.
Vous avez vu, on sent inquiété, tu vois.
On sent que j'ai parlé anglais tout l'été ou pas. Olivier Sanguy est avec nous aussi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable actualité spatiale à la Cité de l'Espace.
Alors tout d'abord, Olivier Sanguy, pourquoi ce report ?
Bon, bien, essentiellement parce que le SLS est un lanceur nouveau, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il doit voler. Donc en fait, moi je ne suis pas vraiment surpris. Il ne faut pas oublier que les navettes spatiales, Philippe Perrin sait mieux que moi, il a volé à bord de l'une d'entre elles. Les navettes spatiales étaient un peu capricieuses, ce sont des engins très complexes, et les premiers vols ne sont pas partis à l'heure. C'était pareil pour le Saturn V d'Apollo. Là, il y a eu un petit problème sur un moteur, il n'a pas assez refroidi. Donc la NASA s'est dit, on n'est pas prêt, on attend. Ceci dit, vous dites vendredi, ce n'est pas encore confirmé. Il faut être, la NASA veut être sûre que vendredi, le lanceur peut être prêt.
D'accord. C'est, normalement, ce sont trois étapes, c'est ça ? Là, on démarre la première étape, si je ne m'abuse.
C'est-à-dire, oui, c'est le vol d'essai à vide, sans astronaute à bord. Il y en a un deuxième en 2024. Il y aura quatre astronautes, normalement trois de nationalité américaine, un de nationalité canadienne, qui vont aller autour de la Lune. C'est un petit peu comme Apollo 8, sauf qu'ils vont pas tourner plusieurs fois. Et ensuite, en théorie, Artemis 3, au-delà de 2025, avant 2028, le nouvel alunissage. L'alunissage du 21e siècle, et puis après surtout un programme plus ambitieux sur le plan scientifique, avec une station autour de la Lune, des bases sur la Lune, etc.
Françoise Degois,
on peut rappeler, ouais, parce que je trouve extraordinaire, on s'est tellement obnubilé pour Mars, en réalité, qu'on a l'impression que Mars a volé la vedette à la Lune, mais ça reste quand même merveilleux, c'est le premier astre qu'on voit, notre vie dépend tellement de la Lune en plus. Juste un point de vue politique et géopolitique, on a vu que les Russes et les Chinois, les Russes se retirent des programmes spatiaux internationaux, la Lune, ça reste, l'espace reste plus que jamais un enjeu avant tout de puissance des nations. Pour avoir eu la chance d'aller à Baïkonour dans la Cité des Étoiles, bien sûr, eh bien, j'avais senti cela, mais j'ai le sentiment que la géopolitique s'invite de façon assez terrible maintenant, aujourd'hui.
Philippe Perrin, vous qui avez volé les Américains, notamment dans Endeavour.
Non, mais là, on parle des Russes. J'ai...
Oui, mais il avait des Russes dans la station spatiale. Hein.
J'ai envie de dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Françoise, c'est-à-dire que si on prend les Américains, par exemple, il y a trois signes de la puissance américaine. Il y a le dollar, il y a l'armée et il y a le spatial. Donc, vous pouvez faire l'analyse qu'aujourd'hui, l'armée, finalement, a été mise en déroute en Afghanistan, que le dollar a quelques soubresauts. Et donc, le spatial, c'est très important. Et ça répond au commentaire d'Olivier, qui est que, de toute façon, les Américains ne prendront aucun risque pour le succès de cette mission, qui est pour eux fondamentale.
Mmh. Olivier Sanguy, est-ce qu'on a encore des choses à apprendre sur la Lune ?
Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la messe n'est pas dite. Hein. Apollo a permis de plus apprendre la Lune. Apollo a permis de se dire que le scénario de la Lune, qui est en fait un morceau de terre arraché il y a 4 milliards et demi d'années, ce scénario semble être le plus probable. Mais il y a encore beaucoup de choses. Il faut savoir que la surface de la Lune, c'est la surface du continent africain. Donc, ce n'est pas en ayant fait 6 alunissages et en ayant envoyé des robots qu'on peut dire on connaît la Lune. Donc, en y retournant, on veut faire plus de science. Notamment, on va aller au pôle sud de la Lune, qui est très intéressant pour la science, et aussi parce qu'il pourrait y avoir de la glace d'eau dans le sous-sol.
Donc, ça veut dire qu'on peut l'habiter.
Oui. Peut-être.
Oui, survivre.
Survivre, oui, pardon.
Petite maison de campagne à la cool.
Jean Dorido.
Non, alors d'abord, oui, c'est vrai que c'est sensationnel de repartir sur la Lune. Il faut quand même rappeler que les ingénieurs ont cette expression, ils parlent de rocket science, notamment pour dire que quand un problème n'est pas compliqué, ils disent c'est quand même pas rocket science, parce que pour un ingénieur, la navette spatiale, c'est le sommet de l'art de l'ingénieur. Ça mobilise toutes les connaissances de l'ingénieur, la mécanique des fluides, la thermodynamique, l'électronique, l'informatique. scientifique. C'est, il n'y a pas de domaine plus complet, oui, que de faire voler une fusée. Et typiquement, j'aurais une question pour nos invités, c'est qu'on voit les ultra-milliardaires, notamment Elon Musk, en tête, qui se mettent sur le spatial, qui eux reviennent aux fusées. Et je veux dire, techniquement, comment se positionne Artemis là, par rapport à tout le reste aujourd'hui ?
On va demander à Philippe Perrin, parce qu'il a volé dans Endeavour. Justement, vous préféreriez aller sur la Lune ou sur Mars, Philippe Perrin, en plus de répondre à la question de Jean Dorido ?
Écoutez, j'aurais jamais l'âge d'aller sur Mars, mais la Lune, pourquoi pas ? Ce que vous disiez, c'est intéressant sur le vol des milliardaires. Pour moi, il y a deux types de milliardaires. Vous avez Elon Musk, qui est un type absolument génial, qui innove et qui pousse la technique en avant. Et puis, vous avez Jeff Bezos, qui pour moi est le plus grand des ringards, c'est-à-dire qu'il prend une technologie, pour le coup, qui a 40 ans, et qui se fait plaisir pour très cher en polluant la planète. Et ça, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, ça n'a aucune couverture. Si vous regardez la couverture médiatique de ces vols privés, elle est absolument zéro. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Là aussi, ce sont des démonstrations de pouvoir. En tout cas, Elon Musk est absent de cette course pour l'instant à la Lune. Pour une autre raison, c'est que les Américains, alors on va dire, mais pourtant ça n'a pas marché aujourd'hui, mais les Américains ont choisi la sécurité. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle dans le jargon du reuse, c'est-à-dire qu'on réutilise des choses que j'ai bien connues, c'est-à-dire les moteurs de la navette spatiale, les boosters à poudre. Alors, on en met 4 là où on en avait 3. Les boosters, il y avait 4 segments, on en met 5. Et on fait avec ça une fusée géante qui est un peu modulaire. Et normalement, c'est le succès, c'est-à-dire le moindre risque, puisqu'on va y mettre des hommes, donc c'est important de ne pas être risqué. Et normalement, ça aurait dû marcher. Alors, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que le moteur, effectivement, n'a pas marché.
En écoutant nos invités, je me rappelle une pensée totalement bête que j'avais en me disant « Cette approche scientifique de la Lune va nous faire perdre la poésie des songes sur elle. Ouais. » Mais les deux sont compatibles, j'ai l'impression.
Juste un petit truc, messieurs, il y a quand même un petit cocorico dans cette mission quand même, avec Airbus Défense. Il y a un petit peu d'Européens, un petit peu de Français.
Il y a un grand cocorico. Juste pour répondre à la poésie, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas. Dans la mythologie indienne, la Lune est sacrée.
Oui, bien sûr. Et les Mapuches aussi, en Amérique latine, bien sûr. Les larmes
exactement,
de la Lune.
Et ne pouvait s'y poser qu'un aigle. Et quand vous vous souvenez comment les Américains ont appelé le premier module lunaire, c'était Eagle. Mais quelque part, ils ont respecté la poésie de la tradition.
Sur les Mapuches, c'est bien ce que vous disiez, parce que les Mapuches ont la tradition de Lacrima Luna, c'est-à-dire les larmes de la Lune. Effectivement, c'est l'astre encore plus sacré que le soleil. Les Mapuches au Chili, pas les Indiens.
Je voudrais vous poser une question. On donne la parole à Jean Dorido.
Juste sur le petit côté français, ce qui est important.
Ah oui, le côté français, vous
disiez. On s'en fout un peu.
Non, c'est vrai. C'est pas que les États-Unis, les Chinois.
J'adore Cécile de Ménibus quand elle est comme ça, patriote.
Il est fondamental de comprendre que ce n'est pas une mission américaine qui décolle aujourd'hui, c'est une mission, on va dire, européano-américaine.
Ah là, merci beaucoup.
Elle est contente, ça y est, elle est super. La Marseillaise,
je vais vous dire, connaissant les Américains, il est même pour moi surprenant qu'il nous ait permis d'être sur le chemin, ce que j'appelle le chemin critique. C'est-à-dire, imaginez que le véhicule, une fois qu'il sera sur l'orbite vers la Lune, toutes les boosts, c'est-à-dire toutes les manœuvres, toute la navigation sera sous contrôle européenne, avec des moteurs qui ont été... Oui. C'est-à-dire que si les moteurs européens ne marchent pas, le véhicule ne revient pas de la Lune.
Ah, c'est ennuyeux.
Et ça, je crois que personne n'a encore compris. C'est-à-dire que... Oui. On nous a fait confiance et maintenant, il faut que ça marche.
Attention, que ce ne soit pas une femme, on n'a pas le sens de l'orientation. Attention,
Est-ce que je peux poser une question ? Est-ce qu'un jour, on aura une station habitée sur la Lune à l'horizon 2050 ?
Justement, c'est la question que je voulais poser, Olivier Sorgui. Non, mais j'en rajoute un morceau. Vous avez parlé de la glace. Toutes les essais de vos atterrir au pôle sud parce qu'il y a de la glace. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une colonisation, voire même une exploitation des richesses minérales de la Lune ?
Oula.
Alors, une colonisation, non, ce sera plutôt quelque chose qui ressemblera aux bases scientifiques dans l'Antarctique. C'est plutôt ce modèle-là.
Ouais.
Mais avant ça, au sol, il y aura une station autour de la Lune qui s'appelle la Gateway et à laquelle l'Europe participe aussi. On va fournir 2 modules dans cette station, donc et notamment un module d'habitation. Donc, il y a une grosse responsabilité. La participation entre le module de service dont a parlé Philippe et les modules dans la station, on a déjà droit, en tant qu'Européen, à 3 vols vers la Lune dans le programme Artemis.
Ah, et il y a la place pour mon dressing ou pas, pour mon dressing avec mes
vrais voix. Avec quand, Philippe?
Ah ben ça dépend. Moi, je suis prêt à faire une déloque des vraies voix, Cécile. Oh,
j'adorerais.
Vous embarque tous les trois.
Juste une petite question. Est-ce que on sait que Donald Trump avait poussé pour être numéro un sur ces missions-là? Est-ce que finalement, on disait tous, on sera jamais dans les temps, et finalement, ça fonctionnait?
Alors, mais on sort. Ouais.
La menace.
On ne fera pas 2024, hein, la date de 2024, oui. Je ne pense pas. Enfin, Philippe va le dire, mais je ne pense pas qu'on arrivera à se poser en 2024. Oui. En revanche.
Oui, justement, sur ces échéances de temps, je vous entends parler de reuse pour la navette. Je me souviens qu'il y a une discipline qui s'appelle le knowledge management, la gestion de la connaissance en entreprise. Et l'exemple typique qui était donné dans les années 90-2000, c'était typiquement de dire la NASA aujourd'hui ne saurait plus envoyer quelqu'un sur la Lune. Ouais. Et alors, est-ce que le travail a été par simulation ou, dire, comment ils sont organisés pour remettre ce projet d'actualité?
Olivier Sanguy, surtout après 50 ans. Ans, la dernière mission.
Mais, bon, c'est un petit peu faux. La NASA sait envoyer des gens sur la Lune, mais elle ne va pas le faire à la façon Apollo. Ce serait comme dire, comme quand la navette spatiale a volé, hein, Philippe connaît très bien le sujet, ce serait comme dire, les Américains savent plus envoyer des gens avec une capsule, sauf que, ils avaient choisi une autre technologie qui à l'époque était la navette. Mmh. C'est tout. Là, c'est pareil. On fait une autre technologie pour aller vers la Lune. Parce que le but, c'est pas de refaire Apollo. Ça n'a pas d'intérêt. Mmh. C'est de faire ce qu'on n'a pas pu faire après Apollo, c'est-à-dire une exploration à long terme de la Lune. D'accord. C'est pour ça qu'on le fait plus de la même façon.
Mais est-ce que dans le scénario de science-fiction, on sait qu'il faut 3 ans pour aller sur Mars, etc. On voit bien comment Elon Musk, et je partage votre point de vue, cet homme est extraordinaire dans sa capacité d'en avant, d'imaginer l'humanité dans un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir une base lunaire où nous arriverions pour nous reposer avant d'entreprendre le voyage de 3 ans sur Mars? Est-ce que ça, c'est de la fiction ou bien ce que nous sommes déjà dans le réel et ce sont des scénarios sur lesquels travaillent, je dirais, les spationautes du monde entier?
Je veux bien répondre à cette question. On ne peut pas aller sur Mars aujourd'hui. Et d'ailleurs, Elon Musk est capable d'envoyer une fusée, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de survivre le voyage martien. Vous le dites très bien, au meilleur des cas, il va durer 1 an et demi, 6 mois pour y aller, puis les orbites sont décalées, donc il faut attendre que les orbites se recollent, et puis il faut 6 mois pour revenir. C'est exactement le scénario de Seul sur Mars, le film avec le cruiser. On en est là aujourd'hui avec les technologies actuelles. Et donc, ce faisant, pendant 1 an et demi, vous allez exposer des astronautes aux radiations interstellaires qui sont juste énormes. Mmh. Et vous ne pouvez pas revenir vivant d'un tel voyage aujourd'hui. Donc, d'accord, ce qui limite aujourd'hui le voyage, ce n'est pas la technologie. C'est la capacité, en fait, de préserver les hommes.
D'accord. Mais ce sont des scénarios sur lesquels on travaille de toute façon. C'est-à-dire que le génie humain de se projeter au-delà de ses propres limites, on y est là, ou pas?
Oui, on y est. Mais on y travaille depuis des années. Le tout, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord sur la meilleure façon de le faire.
D'accord.
Parfois, vous avez des ingénieurs, notamment aux États-Unis, qui font partie, on va dire, de groupes de réflexion qui veulent pousser Mars. Ils nous disent, il n'y a pas de problème pour aller sur Mars. C'est même pas technique, le souci, c'est financier. Bon, comme l'a expliqué Philippe, c'est beaucoup plus compliqué d'accord. que ça. En revanche, on a plusieurs possibilités pour le faire. Là, je vois choisi par la NASA, c'est on passe par la Lune pour maturer, pour fiabiliser les technologies qui permettront de faire le voyage martien en toute sécurité. Parce que si on envoie des gens sur Mars pour qu'ils reviennent en très mauvais état, ça n'a pas d'accord. véritablement un grand intérêt.
C'est le nouveau RER. Quoi.
C'est génial. L'explication, c'est très limpide.
Philippe
beaucoup.
Perrin, vous qui avez été dans la navette spatiale, vous savez ce que c'est que les personnes confinées dans un tout petit espace, quand vous entendez les vraies voix ce soir, est-ce que vous pensez qu'elles pourraient s'entendre dans la station internationale
par exemple? Moi, je dors. Hein, le voyage sur Mars, il est hors de question que je vous supporte pendant 1 an. Même dans 200 mètres carrés, je dors dans un caisson, là, comme dans les films.
Non, mais je crois que c'est pour ça qu'on a décidé qu'il y aurait une femme dans l'équipage pour effectivement calmer les égos de ces mâles dominants, les astronautes.
Vous savez quoi, messieurs, vous êtes les bienvenus dans les vraies voix. Vous avez votre place.
Attends, tu vois bien, ça serait chic. Je vois bien le commandant de Ménibus, tu vois, carrément, sur le fuselage de la fusée. Regarde, ça y est.
Ma commandante.
Mettez-moi dans la centrifugeuse, j'adore.
Merci.
tout cas, messieurs, vous nous avez passionnés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Perrin, spationaute. Magnifique spationaute. Et Olivier Sanguy, responsable actualité spéciale.
Merci vraiment.
Spatiale à la Cité de l'Espace, bien entendu. Vous reviendrez avec nous. Hein, dès que ce petit engin se sera élevé, on fera un point, bien entendu, et on revient dans quelques instants. Il est 18h47. Merci de votre fidélité. Merci de tous vos messages sur les réseaux sociaux. Ça nous touche énormément. Ouais, sur vous, Philippe, sur moi, mais pas un mot sur les autres. Hein. Ah oui. Ils s'en foutent complètement.
Non, mais les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'on vous dit, les réseaux sociaux. Eh ben, on vous dit bonne année.
À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et vous voulez l'heure? Eh ben, je vais vous la donner. Il est 18h50. Il n'y a plus l'horloge parlante.
On dirait ma mère. C'est cadeau. Une gifle, je vais te la donner, ma mère. Que je salue d'ailleurs.
C'est cadeau, c'est bonheur. Vous avez l'impression d'avoir déroulé toute l'actualité? Eh ben, pas vraiment. On vous a pas tout dit. Écoutez.
Les vraies voix Sud Radio, on n'a pas tout dit.
Et c'est Guy qui est en ligne avec nous et qui nous appelle de Toulon. Bonjour Guy.
Oui, bonjour.
On n'a pas tout dit, Guy.
Eh bien, écoutez, moi, je m'avais demandé si j'avais un sujet qui pouvait vous intéresser.
Oui.
Alors,
attention, parce que là, vous faites un énorme teasing. Hein. Allez-y, on vous écoute.
Oui. Alors, voilà, moi, je suis scandalisé de voir les reportages que l'on voit de partout sur, après la tempête, sur l'état des maisons suite à la tempête. Mm-hmm. Donc, j'ai fait 43 ans de bâtiment en étant artisan et indépendant. Et donc, je suis assez choqué qu'il n'y ait personne, mais alors personne, qui s'élève contre ce qui est construit depuis des années, qui sont des maisons construites à la va-vite, qui ressemblent à rien. Il y a une petite pluie de rien du tout, et on se retrouve avec des maisons complètement détruites. Mm-hmm. Parce que, je sais pas, moi j'ai une maison qui est faite, une maison soi-disant, on parle de maison traditionnelle, mais bon, c'est une maison où vous avez des plafonds en placo qui font 15 mm, de la laine de verre dessus, c'est tous des fermettes, donc les toitures, c'est des tuiles de qualité réduite, donc la moindre pluie, le moindre coup de vent, il y a tout qui s'arrache, et je suis scandalisé de voir que personne ne dit rien. Vous vous rendez compte, les pauvres gens, je m'entends en général, parce que ça peut être des maisons même de luxe, je dis les pauvres personnes qui ont investi là-dedans et qui se retrouvent sans toit ni rien. Même les assureurs ne disent rien, ils disent pas il y a un problème de construction, ils devraient se défendre, je veux dire, vous voyez.
Comment on peut savoir ça, Guy, finalement, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient prêts à faire construire des maisons, comment on peut savoir? Il n'y a aucun moyen, il faut faire confiance aux constructeurs.
Parce que tout est fait, oui, parce que tout est fait comme ça maintenant, tout est comme ça, et alors on vous vante l'écologie, mais vous rendez compte, là, ces maisons, quand le plafond est tombé, qu'est-ce que vous faites du placo? C'est pas possible de le recycler. Ces plafonds qui sont tombés, on ne peut pas les recycler. La laine, les laines de roche, les laines de verre, tous les produits qu'on peut vous inventer, le chanvre, tout ce que vous voulez. Une fois que ça a été trempé comme ça, c'est tout. Je ne vous dis pas le mot. Bon, et qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors après, on vous construit des maisons. Maintenant, si on pense au recyclage du matériel, dans quelques années, on prépare une catastrophe écologique.
C'est la maison des trois petits cochons, justement.
On va faire réagir les vraies voix. Moi, j'ai entendu un reportage cet été, suite à la sécheresse, des gens qui pleuraient. Parce que leur maison s'était fendue à cause de la sécheresse. Et les assurances ne voulaient pas prendre en charge. Évidemment, c'était des maisons qui n'étaient plus dans le cadre de la garantie décennale.
Alors que
ce sont des défauts de fabrication. Et j'entendais des gens qui pleuraient. C'était absolument poignant. Françoise Degois, c'est vrai que c'est un sujet dont personne n'a parlé. Qualité de la construction.
Absolument génial que vous nous mettiez ça en lumière. Parce qu'en réalité, c'est la vie des gens. Et on n'en parle absolument pas. Moi, je ne sais pas. Je n'y connais rien. Je ne possède pas de maison. Je reste quand même persuadée que... les maisons de bois sont magnifiques. Alors, j'ai une question à vous poser, puisque vous êtes un professionnel. Oui. Est-ce que vous pensez, vous avez vu tout ce nouveau mouvement qui consiste maintenant à acheter sa maison de bois, en la posant sur un terrain? C'est fini. C'est pas le bois en construction préfabriqué d'avant. C'est vraiment du matériel beau, noble, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est peut-être pas ça la solution?
Bon, je vais vous dire, selon la région, oui. Mais je vais vous dire, dans le Midi, on n'est pas fait pour avoir des maisons en bois. Les maisons, vous savez, elles étaient construites. Moi, j'ai plusieurs maisons. Oui. J'en ai une qui date de 1400. D'accord. Là, si elle est louée actuellement,
elle est où?
Elle est dans un petit village de Provence.
Mais où ça? Ah oui, parce qu'on connaît bien la Provence. Enfin,
oui,
dans
oui,
le Var.
Là, entre Cuers et Pugéville.
Ah d'accord, ok, ça va.
C'est vraiment le Var.
C'est beau, c'est beau.
Bon, j'ai cette maison, elle est louée. Bon, j'ai un locataire qui est là depuis des années, qui ne m'acquittera jamais. Mais je suis certain que si je vais passer des gens avec les soi-disant diagnostics que l'on a maintenant, on va me dire que cette maison est énergivore, alors que c'est pas vrai. Le gars, je l'ai vu l'autre jour, il m'a dit, écoute, de l'été, j'ai pas dépassé 25 degrés dans la maison.
Ah bah oui.
C'est une maison en hiver, elle ne descend pas en dessous de 15 degrés.
Mais les murs, voilà. Les murs font donc, combien d'épaisseur, Guy?
Oui, mais c'est des murs qui font entre 60 et 1 mètre d'épaisseur. Il n'y a pas de cloison.
Donc,
c'est construit d'une manière qui se faisait avant. On ne peut plus construire comme ça. Mais quand vous regardez les architectes maintenant, j'ai dit un jour à l'architecte de la mairie de Toulon, je lui dis, vous êtes une architecte frustrée, c'est pas possible de faire le métier que vous faites. Vous donnez la couleur des façades aux gens. Non, elle l'a pas bien pris. Mais je lui dis, mais vous vous rendez compte l'horreur de ce qui se construit. Il n'y a plus aucun immeuble qui ressemble à quelque chose. Là, je vais vous dire, je suis arrêté dans une zone à la banlieue de Toulon, où on vient de construire des immeubles, mais si vous voyez ça, mais c'est horrible.
Mais vous êtes où? Parce que moi, vous savez que j'ai travaillé des années à Toulon, vous êtes où? Donnez le nom.
Là, je suis à côté de l'avenue 83.
Ah oui, d'accord, oui,
de construire.
Bien sûr, oui,
le centre commercial, oui.
C'est assez, non, c'est pas Mayol, c'est à côté. C'est assez
laid. Mayol, les gens qui ont construit ça, madame, vous vous rendez compte? À côté des remparts Vauban.
Non, mais je sais, j'ai habité sur le cours Lafayette pendant des années, mon ami.
C'est pas loin de la piscine qui a coûté une fortune, parce qu'elle était olympique, de faire 50 mètres, et l'architecte tu n'avais pas compté l'épaisseur des petits carreaux, elle n'a jamais été homologuée.
C'est ça, je crois.
Mais vous vous rendez compte où on en est? Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui construisent? Et maintenant, ils sont diplômés.
Mais est-ce qu'il y a une solution, Guy? Parce que c'est ça le problème.
Ben c'est la question d'argent.
Il y a une manière de travailler. Oui. C'est que quand vous construisez, vous êtes là pour faire un travail dans les règles de l'art, et vous n'êtes pas là que pour faire du fric. Le fric, vous le faites. Vous savez, moi, j'ai été 40 artisans. La première chose que je faisais le matin, d'ailleurs, quand je viens de m'arrêter il y a 8-10 mois, la Chambre des métiers, ils m'ont dit comment vous avez fait pour pérenniser votre entreprise. Et comme ça, on en a très peu. Bon, qui reste plus de 40 ans comme ça. Je lui ai dit, mais madame, je ne me suis jamais levé pour gagner du fric. Je me levais le matin pour aller travailler. Mmh. Et pourtant, j'ai gagné de l'argent. Mais mon but, c'était que mon client me renvoie quelque chose de positif. Alors je vous dis pas que je suis au-dessus de tout.
Mais ça veut dire que c'est cher.
Des bêtises, on en a faites, comme tout le monde. Mais à l'heure actuelle, tout est business.
Excusez-moi.
De l'écologie, on fait du business.
Excusez-moi, vos maisons, voilà. Elles étaient chères. Il faut aussi voir que la classe moyenne, elle prend aussi des.
C'est une question que je pose. C'est la manière de faire.
Non, mais d'accord.
Je vais vous dire, si vous faites une fondation, si vous faites une fondation digne de ce nom, une maison ne bouge pas.
Voilà, c'est vrai.
Je vais vous dire, puisque vous connaissez Toulon, sur la corniche du Pharaon, il y a un lotissement qui s'appelle, je m'en rappelle plus, comment il s'appelle ce lotissement, en fait, c'est pas le problème. Un jour, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, monsieur, vous pourriez me mettre des gouttières? J'ai dit, non, je vous mets pas de gouttières. Je lui ai dit, faites venir votre assurance décennale, faites soutenir votre maison. Ça a duré 4-5 mois, comme c'est un gars que je connaissais, que je voyais régulièrement. Un jour, il me dit, vous m'énervez, il fait un courrier, tac, 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 il envoie le fax à l'assurance. Il est venu l'expert le lendemain, c'est le parc Saint-Jean à Toulon, le parc Saint-Jean, sur la corniche du Pharaon. Le gars, il est venu, d'accord, il est pas reparti, il a appelé une société de Marseille qui est venue étayer la maison immédiatement. C'était la maison du promoteur, il n'y avait pas de fondation.
Ah oui, ah oui. Quand même. En tout cas,
il
merci.
Il avait payé la maison 120 000 euros, 1,2 million. Il y a eu 1,2 million de travaux pour soutenir la maison.
Ah oui, la preuve que quand même il faut prendre toutes les garanties possibles quand on fait construire une maison.
En
ça
tout
c'est
cas,
quand même le
béaba
et un vrai
fondement,
sujet.
C'est fondamental.
Absolument.
Fondamental.
Ah,
ben, c'est...
Bravo, bravo, bravo.
Le mot de la fin.
Voilà, je m'en
merci.
Voilà, c'est ça. Vous voyez le niveau Bigère, ça.
Il était nécessaire de m'entendre sur un terrain.
Voilà, voilà. Et nous aussi, on n'a rien à dire. Mais alors, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer
voilà.
ça.
Voilà.
Si je peux en placer une. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir alerté sur ce sujet. Restez avec nous, on revient dans un instant. Philippe Bigère, Françoise de Gouas, Jean Dorido, merci mille fois.
Pour cette première.
C'était canon de vous avoir.
Vous a chambré, mais vous étiez très mignon.
Vous êtes très mignon.
Et tout de suite, c'est les premières vraies voix citoyennes.
Citoyennes, exactement. On va parler des
fondamentales du type.
C'est
un adjectif.
Mais
il est fondamental. Il est fondamental de parler dans le micro.
Mais tout à coup, je me suis rappelé les règles de politesse.
Voilà, c'est ça, c'est ça. En tout cas, on parle des médecins généralistes et du pouvoir d'achat dans quelques instants. Restez avec nous. 18h59, à tout de suite.